Il est 5h57, bonjour, bonjour, bienvenue. Très bon réveil, il y a des matins comme ça où c'est plus difficile que d'autres. Je suis réveillée de sortir du lit. Donc vous savez quoi, installez-vous dans le canapé.
Comme nous.
Prenez la petite tasse de thé, de café, de chocolat chaud et nous on va vous accompagner.
Je pense
tranquillement.
Qu'on devrait peut-être penser à installer une petite cheminée ici.
Ouais, j'aimerais bien. Mais tu sais qu'on peut faire un truc qui est pas mal, c'est se mettre un faux feu de cheminée.
Un faux
Franchement,
feu de cheminée.
Franchement, l'effet, je vous le conseille, ça fonctionne.
On dirait quand même papier mamie sur les canapés là.
Non, il manque le plaid.
Tranquillement, on a quand même 3 heures de matinale à faire, alors on va aller rejoindre l'équipe. Très bon réveil à
moi,
tous.
Moi, je suis bien ici,
on y va.
À tout à l'heure.
Tout le monde.
Ouais, je vous attends, je vous regarde d'ici, de loin.
Comment ça va, tout le monde?
Bien.
Bah il neige.
Bah oui, il neige, ça y est, il neige. Et puis ça va continuer de neiger. C'est le début, c'est la vague de froid qui s'intensifie encore. Est-ce que c'est le jour le plus froid?
Le coup de froid. Ouais,
pardon,
alors,
on va
jour
parler
le plus
de vague.
Froid, on est plutôt entre jeudi et vendredi, visiblement.
Jeudi et vendredi, ce sera vraiment le jour le plus froid de la saison.
Bon. Non, mais il y a une bonne nouvelle quand même. Parce que moi, je veux bien, on parle du froid. Mais qui dit froid dit
raclette.
Raclette.
Évidemment.
J'ai cru qu'elle parlait de ma venue ce matin.
Évidemment. Et Guillaume qui nous accompagne ce matin. Et en plus, vous venez le jour où on va rencontrer les champions du monde de raclette qui sont français.
Oui, il a mis le col roulé, Guillaume.
Wow. Voilà. Moi, j'attends toujours le col roulé chez
Oui, alors, Kevin a dit que c'était le jour le plus froid à vendredi. Donc, le col roulé, je le sortirai vendredi, promis.
Ok, c'est noté.
Allez, on va faire le point tout de suite sur les conditions météo du jour.
Votre météo entre mer et montagne avec la Clémentine de Corse. Clémentine de Corse, chère et tellement corse.
La météo avec paruvendu.fr. Sur paruvendu.fr, achetez et vendez votre véhicule d'occasion près de chez vous.
La météo avec Generali. Préparez votre futur ici et maintenant. Generali, assurez vos vies.
Eh ben les voilà, la première neige de la saison en pleine. Non, mais il y a une jolie petite couche là.
Oui, en effet, entre 1 et 2 cm, nous sommes ici dans le département de la Meurthe-et-Moselle. La Nationale 52, difficilement reconnaissable près de la commune de Crune. Également concernée, prudence hein, si vous êtes donc entre la Lorraine, la Meurthe-et-Moselle et le département des Ardennes où il y a des chutes de neige en ce moment. Autour de 300 mètres d'altitude, ce sera terminé normalement cet après-midi, mais avec à l'arrière un temps très actif, avec des giboulées neigeuses, voire des averses de grêle sous les averses les plus importantes, avec un vent qui restera sensible. Ce sera beaucoup plus calme à l'avant, en direction de la Méditerranée. Les températures ce matin, gelées généralisées entre Nouvelle-Aquitaine et Alsace. On ne parle plus de douceur dans l'après-midi, sauf vers la baie d'Ajaccio.
C'était votre météo entre mer et montagne avec la Clémentine de Corse. Clémentine de Corse, chère et tellement corse.
C'était la météo avec paruvendu.fr. Sur paruvendu.fr, achetez et vendez votre véhicule d'occasion près de chez vous.
C'était la météo avec Generali. Préparez votre futur ici et maintenant. Generali, assurez vos vies.
Allez, bienvenue à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez sur BFM TV, on est ravis de démarrer cette journée avec Perrine. Il est 6h. À la une ce matin, préparez-vous à payer plus cher votre taxe foncière l'an prochain. Bercy annonce une hausse surprise. Elle sera automatique et concernera plus de 7 millions de foyers. Augmentation liée au confort des logements, on va vous expliquer.
Pour la sauver des griffes d'un escroc, les enfants d'une septuagénaire viennent de porter plainte. Elle est persuadée de vivre une histoire avec le chanteur Pierre Garnier et une attaque au sentiment qui lui a déjà coûté plusieurs milliers d'euros.
Un pas supplémentaire vers une interdiction des réseaux sociaux aux jeunes adolescents. Hier, les pays européens sont tombés d'accord sur le principe d'une loi. La France veut limiter l'accès aux plateformes aux moins de 15 ans.
Et puis à 6h15, 2 minutes pour comprendre pourquoi le prix de votre facture d'eau n'a pas terminé de flamber. 30 à 50% de hausse sont annoncées dans les 5 prochaines années.
Alors c'est une hausse qui n'était pas prévue. Si vous êtes propriétaire, Bercy vous a réservé une petite surprise. Préparez-vous à voir votre taxe foncière augmenter l'an prochain.
Et ce, sans même tenir compte de l'inflation. Une hausse moyenne de 63 euros sur la facture qui va concerner plus de 7 millions de Français. Bercy se justifie en parlant d'un ajustement lié à des critères de confort. Explication Thomas Hérigo, Élise Philippe, c'est Gaëtan Mélin avec Mylène Argelas.
Cette mise à jour souhaitée par Bercy pourrait coûter cher à 32 millions de propriétaires français.
Six éléments de confort déterminent en partie le montant de la taxe foncière. Le raccordement à l'eau et à l'électricité, la présence d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo, de WC, d'un chauffage ou d'un climatiseur. Aujourd'hui, l'administration fiscale estime que les logements sont tous équipés. Près de 7,5 millions d'habitations vont donc voir leur taxe augmenter.
Tout ça est ridicule. Il faut aujourd'hui revoir les bases de taxes foncières et prendre la valeur de la maison ou de l'appartement plutôt que ces critères de confort qui sont ridicules.
Pour ce député RN, c'est surtout la méthode du gouvernement qui pose problème.
Techniquement et intellectuellement, c'est pas délirant de dire bon ben faut remettre les choses à jour. Ce qui m'inquiète, c'est ce que je trouve dommage, c'est qu'on n'ait pas anticipé un peu la chose, que ça sorte, que tout le monde le découvre comme ça au hasard d'un article.
Cette augmentation comporte de grandes disparités selon les départements. Seuls 10% des logements sont concernés en Isère, 60% en Haute-Corse.
Merci parisianisme. Considérons que sur tout le territoire français, on fonctionne comme dans les quartiers parisiens. Vous croyez qu'en Corse et en Haute-Corse, il y a eu des inondations de confort, alors qu'en général, ce sont des biens qui sont indivis sur plusieurs générations, qui ne sont pas entretenus, parce que l'histoire familiale est ainsi faite.
Cette mise à jour induirait une hausse moyenne à l'année de 63 euros par logement, ce qui pourrait rapporter 446 millions d'euros aux communes et aux départements.
On voulait vous raconter aussi ce matin l'histoire de cette septuagénaire belge aux mains depuis plusieurs mois d'un escroc qui se fait passer pour Pierre Garnier. Vous savez, c'est le vainqueur de la Star Academy.
Alors, vous vous souvenez peut-être de l'affaire du faux Brad Pitt. Eh bien, voilà, eh bien, c'est exactement la même histoire, sauf que la victime ne veut absolument rien entendre. Elle a même coupé les ponts avec ses enfants qui ont décidé, pour tenter de la sortir des griffes de cet escroc, de porter plainte pour tenter de la sauver. Ils ont témoigné hier sur BFM TV. Écoutez.
Elle commençait à nous parler de groupes auxquels elle parlait avec des stars. Et là, elle nous a commencé à nous parler de Elena, puis de Pierre. Et puis, c'est devenu constamment, quasi presque tous les jours. Et puis, il lui envoyait des photos. Et là, on lui demandait pour qu'il se voyait en webcam, quoi. Et là, on a compris que c'était du fake, quoi. Elle a dit qu'elle continuerait à parler avec cette personne tant qu'on lui prouve pas que c'est un faux.
Voilà, témoignage effectivement assez édifiant sur cette histoire. Mmh. C'est pas la première fois. Hein. Mmh. Il y avait des histoires avec Grand Corps Malade, avec Brad Pitt. On y reviendra également dans le journal de 7h. L'Europe deviendra-t-elle bientôt, Perrine, le premier continent à interdire les réseaux sociaux aux jeunes ados?
On vous en parle parce qu'un sommet consacré à la question de la majorité numérique s'est tenu hier à Berlin et les pays membres sont tombés d'accord sur le principe d'une loi pour protéger les plus jeunes. Reste à fixer l'âge. La France, de son côté, plaide pour interdire l'accès à cette plateforme aux moins de 15 ans. Thomas Hérigaud, Blandine Dalena, Hortense Gérard, Raphaël Grabli avec Antoine Fernandez.
Le sujet est régulièrement relancé. Faut-il mieux encadrer l'accès aux réseaux sociaux pour les plus jeunes? Lorsque nous vous interrogeons, la réponse semble assez évidente.
Moi, je pense que c'est très bien, parce que moi, j'ai eu les réseaux sociaux hyper jeunes et je sais que c'était pas du tout bien dans mon développement.
Ah oui, harcèlement.
Oui, même tout ce qui est harcèlement et tout.
Je pense que c'est une très bonne idée de définir un âge limite, parce qu'effectivement, il y a une dérive sur l'accès des jeunes aux réseaux sociaux.
C'est en tout cas le souhait des députés macronistes qui ont déposé hier une proposition de loi. Plusieurs options sont sur la table. Interdiction et suppression des comptes de moins de 15 ans, mais aussi instauration d'un couvre-feu numérique pour les 15-18 ans. Cette députée est à l'origine de la proposition. Selon elle, il est urgent d'agir.
On avait ce constat de l'impact négatif des réseaux sociaux et de leur usage excessif sur la santé mentale des jeunes et que malheureusement, depuis plusieurs années, malgré ce constat, on n'avait pas d'action concrète.
Une proposition de loi qui pourrait, si elle était votée, se transformer en casse-tête législatif avec des règles européennes contraignantes. Mais Laure Miller l'assure, le droit européen change et pourrait permettre ces restrictions.
Depuis cet été, la Commission européenne nous permet de légiférer en droit interne, en droit national. Nous pouvons agir en droit interne et poser cette interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans, en l'occurrence en droit national.
D'autres pays ont déjà mis en place des mesures similaires. En Australie, dès le 16 décembre, tous les réseaux sociaux seront interdits aux moins de 16 ans.
Chacun a le droit d'exprimer ses convictions, les artistes aussi. Quelques jours après les propos polémiques d'Alain Souchon sur le RN, Pierre Arditi lui apporte son soutien.
Oui, le chanteur avait déclaré chez nos confrères de RTL, je cite, « ne pas croire que les Français soient assez cons pour élire un président RN ». Eh bien, sur BFM TV, Pierre Arditi se dit d'accord sur tout et défend le droit de donner son avis. Écoutez.
Lui, il l'a fait d'une certaine manière sous le sceau de la plaisanterie, en disant « si c'est comme ça, je pars en Suisse ». Et là, on pensait bien que évidemment, il n'en pense pas un mot. C'est lui a fait une espèce de galéjade. Donc, compte tenu du contexte, évidemment, et pour une certaine catégorie de politique, ils se sont jetés dessus en disant, voilà, c'est un bobo germano-pratin. Non, c'est pas un bobo germano-pratin. Il n'a pas envie de voir arriver au pouvoir l'une des parties extrêmes de notre pays. Ce n'est pas la seule, d'ailleurs, il y en a d'autres, dans l'autre bord politique. C'est comme ça. Bah, il a balancé ça comme ça, mais il n'est pas plus bobo que moi ou que d'autres. On a des convictions, on a le droit de les exprimer comme on veut. Chacun enterre ses morts comme il veut. Hein, voilà, c'est comme ça.
Allez, on va revenir sur ce coup de froid qui touche la France depuis le début de la semaine et qui va continuer de s'intensifier avec des premières neiges en plaine ce matin, Kevin. Attention au risque de gel, j'imagine.
De verglas, des opérations de salage. Vous êtes 120 000 à rejoindre le Luxembourg chaque jour depuis la 30, la 31. Il y a des opérations de salage sur ces deux axes en raison de la neige qui tient au sol.
Et justement, ces conditions météo, elles sont effectivement suivies minute par minute par les agents d'entretien prêts à intervenir rapidement au volant des saleuses. C'est le cas sur l'A62 entre Bordeaux et Agen. Un reportage de Vincent Hénin avec Isor de la Gorce.
Leurs camions se tiennent prêts à intervenir.
On se prépare, on charge camion avec sels au mur.
Avec le risque de gel, les agents d'entretien de l'autoroute redoublent de vigilance.
L'idée, c'est d'anticiper au maximum et au moindre doute, on sortira en préventif pour assurer un premier salage, puis assurer des interventions d'urgence si besoin.
Leurs armes, ces montagnes de sel et de la saumure. Des traitements préventifs pour éviter qu'une couche de verglas ne se forme sur la chaussée. Car leur cauchemar, c'est ça. Des routes enneigées, des embouteillages et des risques pour les automobilistes. Alors les patrouilles sont renforcées.
De mi-novembre à mi-mars, on va avoir en fait des équipes d'astreinte qui vont s'entraîner une fois par semaine à monter et démonter les lames, être prêts en toute situation.
Plus de 700 engins œuvrent sur le réseau. Alors ces agents appellent les automobilistes à la plus grande des vigilances.
On roule à une vitesse modérée, lente, et évidemment les véhicules qui arrivent sont surpris par la lenteur de notre véhicule. C'est ce moment-là qui est un peu délicat.
Pour garder les routes praticables, près de 42 000 tonnes de sel sont stockées en début de saison.
Une histoire de Rolex à présent et de lingots d'or ce matin qui semble avoir aidé au rapprochement entre la Suisse et les États-Unis.
Oui, écoutez, ça, il y a quelques jours, une délégation suisse était reçue à Washington pour tenter d'amadouer Donald Trump et de faire baisser les tarifs douaniers imposés par les États-Unis. Eh bien, opération réussie, accord conclu. Il faut dire que les Suisses n'ont pas manqué d'arguments percutants pour convaincre le président Antoine Hollard.
Oui, en fait, il y a un véritable mode d'emploi pour s'attirer les bonnes grâces de Donald Trump et le mettre dans de bonnes dispositions. Lorsque vous le rencontrez, il faut d'abord le couvrir de louanges et puis ensuite lui offrir un cadeau, de préférence quelque chose qui brille ou de clinquant. Et c'est précisément ce qu'a fait cette délégation suisse il y a une dizaine de jours. Des grands patrons qui avaient rendez-vous dans le bureau ovale avec Donald Trump, ils lui ont apporté un lingot d'or personnalisé, un lingot d'un kilo, valeur 130 000 dollars. Ils lui ont apporté également une Rolex en or. Au départ, ils avaient envisagé une Rolex en titane avant de se raviser et de se rappeler que Trump préfère l'or. Alors cette offensive de charme a fonctionné. La Suisse, qui était étouffée par des droits de douane à 39%, a réussi à faire baisser la note. Les taxes sont passées à 15% et selon la presse américaine, tout s'est accéléré, tout s'est débloqué après cette réunion et ces cadeaux qui ont enchanté le président américain. Précisons tout de même que les grands patrons suisses se sont aussi engagés à investir des sommes colossales sur le sol américain, 200 milliards de dollars. Et ce qui est intéressant, c'est que Trump a réussi à imposer ce rapport de force favorable, alors même que les droits de douane sont sur la sellette. Ils pourraient être bientôt remis en cause par la Cour suprême, mais tout cela n'empêche pas Donald Trump de conclure des deals à son avantage. Quant aux cadeaux qu'il a reçus, la Maison-Blanche précise qu'ils seront à terme transférés vers la future bibliothèque Donald Trump, qui sortira de terre dans 4 ans en Floride, et où seront stockés tous les présents, et ils sont nombreux, qu'il a reçus pendant sa présidence.
Merci beaucoup Antoine Hollard. Une Rolex et un lingot, ça tient un peu de choses finalement, les relations diplomatiques. Alix, vous vouliez nous parler d'un record ce matin.
Oui, alors ça s'est passé hier à New York, une vente féroce. Six potentiels acheteurs se sont disputés pendant 20 minutes ce tableau. C'est un tableau de Gustav Klimt qui a été adjugé pour 236,4 millions de dollars. C'est donc le deuxième tableau le plus cher jamais vendu aux enchères. C'est un tableau qui représente Elisabeth Lederer. C'est l'une des principales mécènes de Gustav Klimt. Gustav Klimt qui a peint ce tableau entre 1914 et 1916.
Voilà pour la petite explication.
Plusieurs
linglots. Plusieurs linglots, ouais. Et vous savez l'œuvre la plus chère de l'histoire?
Moi, je sais. Salvator Mundi de Léonard de Vinci.
De Léonard de Vinci. Effectivement, elle est incollable. Alix, allez, chose promise, chose due. On vous avait dit, avec l'hiver, on se réconforte avec quoi? Avec la raclette, évidemment, l'ouverture de la saison de la raclette. Et alors, Thomas Herman, on monte en gamme ce matin parce qu'il est carrément en Isère, précisément à Montferrat, chez les champions du monde de la raclette qui sont français.
Ils sont français, oui, dans la catégorie lait de chèvre. Alors forcément, ce matin, dans ce département de l'Isère, on est plutôt fiers, regardez. On est notamment avec Philippe et Marine. Bonjour à vous deux. Qu'est-ce que l'on voit à l'image? Tout d'abord, Marine, je rappelle que vous êtes l'une des gagnantes, une des championnes du monde de la raclette du lait de chèvre, quand même. C'est pas rien.
Et non, c'est pas rien. Hein. Il y avait quand même 150 fromages et il y avait nous. Alors du coup, on est vraiment fiers de ce qu'on a fait et on est fiers de notre fromage.
C'est quoi la particularité de ce fromage, justement? Je crois que vous en avez présenté deux, c'est ça?
Oui, on a présenté la grisée, donc c'est la raclette de vache frottée au vin blanc de Savoie. Et la deuxième, c'est la raclette de chèvre. Donc c'est la raclette au lait de chèvre qui a été médaille d'or et qui a fini championne du monde. Ici, on peut voir la raclette de vache frottée au vin blanc de Savoie, ce que Philippe est en train de faire. Et donc la particularité, c'est que c'est une croûte grise. On a l'habitude d'avoir une raclette en croûte orange, donc une croûte morgée. Et nous, en fait, on la frotte juste au vin blanc de Savoie.
Vous êtes les seuls Français à avoir gagné un titre, ça fait quoi?
Eh ben, on est trop fiers de nous, c'est fantastique. On n'y croit toujours pas, hein. Mais on est vraiment contents et c'est vraiment le travail de toute une équipe. On a eu une... Non, c'est pas de la chance parce que c'est du travail. C'est quand même plein de petits détails, donc on est vraiment fiers.
Et juste dites-moi rapidement, ça sert à quoi de frotter le fromage comme ça?
Pardon?
Ça sert à quoi de frotter le fromage comme ça?
Eh ben, c'est ce qui va apporter ce petit goût subtil en fin de cuisson.
Merci beaucoup. Et je vous précise quand même quelques petits chiffres ce matin, puisque vous me dites que la raclette, il fait froid, on la consomme. 2 kilos de fromage à raclette tout de même par personne chaque année. Raclette qui est devant la fondue. Et puis il y avait un autre chiffre qui me faisait un petit peu marrer hier soir. C'est le nombre d'appareils à raclette vendus chaque année, 1 200 000.
Wow, 1 200 000. En même temps, je crois qu'on a tous
on a décidé d'en racheter pour ce week-end.
Ah ouais, pas d'appareil à raclette.
Si, mais ils sont très vieux. Bon.
Vous savez qu'il y a les appareils et des bougies. Maintenant, on peut faire chauffer sa raclette à la bougie.
Non, faut avoir le temps.
Oui, mais bon, c'est le charme de l'authentique.
Vous avez peur de la hausse de la taxe d'habitation,
vous.
Exactement. Fort minimum. Vous restez avec nous, on va parler d'une autre hausse, tiens, dans un instant, celle du prix de l'eau. 2 minutes pour comprendre votre facture d'eau. Vous estimez payer trop? Eh bien, préparez-vous à payer plus encore. La hausse ne fait que commencer et on va vous expliquer pourquoi.
L'éco-Emmanuel, le pacte Dutreil est dans le viseur de la Cour des comptes et vous nous dites ce matin non, pas touche.
Ah, pas touche, c'est un des derniers dispositifs qui incite encore les chefs d'entreprise à rester en France.
Allez, on est de retour dans moins de 2 minutes. À tout de suite.
Merci de passer cette matinée hivernale en compagnie de BFM Première. 2 minutes pour comprendre votre rendez-vous. Pourquoi le prix de votre facture d'eau va flamber dans les prochaines années? Continuez même. Vous estimez qu'elle a déjà bien augmenté. Eh bien, préparez-vous à payer encore davantage, Dominique, entre 30 et 50% selon les experts.
Oui, très concrètement, regardez la facture moyenne d'eau pour une famille de 4 personnes. Aujourd'hui, elle est de 570 € par an. Elle sera en 2030 avec une projection de 50% de 855 €. Alors comment expliquer cette flambée? 3 raisons principales. La première, nos canalisations d'abord. Un réseau vieillissant, pour ne pas dire vétuste, avec des fuites partout. Imaginez, quand on transporte 100 litres d'eau, 20 litres se perdent en route, 20% de pertes. Ensuite, la dépollution des sols qui coûte de plus en plus cher. Il faut éliminer les pesticides, les nitrates et puis ce qu'on appelle aujourd'hui les polluants éternels. Et ça, évidemment, ça fait monter la facture. Et puis, le changement climatique, pour terminer, la sécheresse, la baisse du niveau des nappes phréatiques qui rend l'eau évidemment plus rare et donc plus chère.
Donc ce sont donc des critères combinés qui font monter la facture d'eau et ça génère aussi des inégalités.
Oui, forcément, avec des écarts d'ailleurs assez impressionnants de 1 à 4 en France en fonction des régions. Regardez, le Nord et le Nord-Ouest sont les régions où l'eau coûte le plus cher, 8,03 par mètre cube à Trélu-sur-Marne. Par exemple, c'est dans l'Aisne, en raison d'une pollution intense des sols due à une agriculture intense. À l'inverse, là où l'eau coûte la moins chère, eh bien c'est dans le sud-est, à Aubessin. On a pris l'exemple d'Aubessin dans les Hautes-Alpes. 2,07 le mètre cube, 4 fois moins cher. Là encore, l'eau est de meilleure qualité. Il y a moins de traitement. Pour être très concret, à l'heure de la douche, c'est peut-être votre cas ce matin, si vous êtes dans les Hautes-Alpes, en 2030, avec une hausse de, donc dans 5 ans, avec une hausse de 50%, une douche par jour coûtera par personne 67,20 € à l'année. Une douche par jour de 5 minutes seulement coûtera, si vous habitez dans l'Aisne, 261 € à l'année. Vous imaginez une facture avec 4 personnes dans un foyer, ça peut monter très très vite, 194 € d'écart. Voilà à quoi nous prépare ces études. Alors évidemment, vous pouvez faire attention chez vous, limiter l'eau du robinet, éviter le goutte à goutte. Mais selon les experts, le mal est beaucoup plus profond. Il faudrait 500 milliards d'euros pour remettre en état tout le réseau d'eau.
C'est incroyable, hein, cet écart. 194 € d'écart, c'est énorme. Merci Dominique. L'écho, justement, avec Emmanuel de Chypre.
Votre rendez-vous avec AG2R La Mondiale. Épargne, retraite, santé, prévoyance. AG2R La Mondiale, prendre la main sur demain.
Retrouvez votre rendez-vous avec EBS Énergie. EBS Énergie, financeur de vos travaux de rénovation énergétique.
Votre rendez-vous avec Evans, votre partenaire location longue durée. Avancez vers une meilleure mobilité avec Evans.
C'est la niche fiscale préférée des patrons français, Emmanuel. Le pacte Dutreil qui allège la fiscalité sur la transmission des entreprises familiales. La Cour des comptes dénonce son coût abyssal.
Effectivement, le pacte Dutreil, du nom de l'ancien ministre des PME, Renaud Dutreil, qui avait mis ce dispositif en place en 2003, il permet de transmettre une entreprise, quelle que soit sa taille, à l'intérieur de la famille qui la possède, afin de préserver le tissu industriel français et éviter que les entreprises étrangères raflent nos fleurons. C'est un dispositif qui est utilisé par 4 à 5 000 familles chaque année et qui permet notamment, sous réserve de garder l'entreprise au moins 6 ans, d'obtenir un abattement de 75% sur la valeur des biens transmis, parce que sinon vous auriez plein d'héritiers qui n'auraient pas les moyens de payer les droits de succession et qui seraient obligés de vendre l'entreprise. Or, la Cour des comptes dit ça coûte deux fois trop cher pour des résultats jugés peu discernables, entre guillemets, comme dit la Cour des comptes.
Alors, qu'est-ce qu'elle propose, justement, la Cour des comptes ?
Alors, elle ne nie pas qu'un tel dispositif est justifié, compte tenu notamment de la fiscalité élevée sur les transmissions des sociétés en France, presque deux fois plus élevée qu'ailleurs en Europe, mais elle propose quand même de restreindre le dispositif pour diviser son coût par deux pour les finances publiques. C'était 5 milliards en 2024. Alors, normalement, c'est beaucoup moins, c'est autour d'un milliard, mais en 2024, il y a eu une ou deux opérations exceptionnelles, mais qui ne reflètent pas la réalité. Alors, elle suggère quoi, la Cour des comptes ? D'exclure les biens non professionnels de l'abattement, parce que c'est vrai que ça peut choquer quand vous transmettez un yacht avec un gros abattement fiscal. Oui, effectivement, donc il y a peut-être des choses à faire de ce côté-là. Et puis, elle prévoit aussi d'allonger la période pendant laquelle l'entreprise ne peut pas être revendue. Les députés ont déjà fait d'ailleurs des propositions en ce sens début novembre.
Et j'imagine que ça passe mal du côté des patrons.
Alors, ça passe mal du côté des patrons, ça passe pas très bien non plus du côté du gouvernement, parce que le pacte Dutreil, ça fonctionne. Et il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, c'est quasiment le dernier dispositif qui dissuade encore beaucoup de patrons de quitter la France. Et donc, ça les encourage à rester en France. Alors, c'est vrai qu'au-delà de quelques cas extravagants, il y a quand même 80% des pactes qui concernent des entreprises de moins de 50 salariés. Donc, le cœur de cible, préserver les PME, est quand même atteint. Au final, ce sont plusieurs centaines de sociétés, 70 000 à 120 000 emplois chaque année, qui sont préservés grâce à ce pacte Dutreil. Et puis, ça n'est surtout pas le moment de plomber ce régime favorable au moment où il y a un choc démographique considérable qui se prépare. Vous avez un quart des patrons d'entreprises qui a plus de 60 ans aujourd'hui. Et donc, il va falloir surtout ne pas faire peur à leurs futurs héritiers.
Merci Emmanuel. La suite va vous intéresser à la une du journal de 6h30. À quoi ressemblent les riches en France ? Salaire, patrimoine, foyer fiscal. L'INSEE dévoile le portrait robot des Français les plus aisés.
Et puis à 6h40, votre rendez-vous santé Aurel Gage. Je nous fais découvrir une innovation ce matin dans le monde capillaire, le casque infrarouge qui fait repousser les cheveux. Alors, miracle ou gadget ?
Bon début de journée, on est ravis de vous accueillir avec Dominique, avec toute l'équipe de BFM. Première question à la une ce matin, qui sont réellement les riches en France ? Revenus, profession, âge, l'INSEE dévoile leur portrait robot. On y apprend notamment que depuis 10 ans, leurs revenus ont augmenté plus vite que ceux du reste de la population.
L'IGPN pointé du doigt dans un rapport d'ONG, des violences policières en hausse, un taux d'élucidation en baisse, des trous noirs dans les enquêtes, la police des polices ne traiterait qu'environ 10% des affaires pénales.
Une croix verte sur la façade de la mairie, le bâtiment transformé en pharmacie dans un petit village de Lozère. Une illustration de la difficulté d'accès aux soins dans de nombreuses communes.
Et puis à 6h40, votre rendez-vous santé avec cette innovation en matière capillaire, le casque infrarouge qui fait repousser les cheveux. Est-ce que ça marche vraiment ? Réponse et démonstration avec le docteur Aurel Getsch.
En plein débat budgétaire, c'est une étude riche en enseignements qui est publiée par l'INSEE, le portrait social d'une France où les inégalités de revenus et de patrimoine se creusent.
Et où les revenus des plus aisés ont doublé en 10 ans. Alors à quoi ressemblent nos riches salaires, patrimoine, foyer fiscal ? Combien gagnent-ils ? Gaëtan Mélin, Clémence Renard avec Antoine Fernandez.
Demeure luxueuse, voiture de sport et vue sur le lac d'Annecy. Bienvenue dans la petite ville où ici les riches sont les plus riches. Verrier-du-Lac, à peine 2300 habitants et un niveau de vie plus que confortable. Dans cette commune, 10% des habitants gagnent au minimum 10 000 euros par mois, voire potentiellement beaucoup plus. Car ici, l'impôt sur le revenu s'élève en moyenne à plus de 27 000 euros. C'est 6 fois plus que la moyenne nationale. Les prix de l'immobilier flambent, comptez en moyenne 11 000 euros du mètre carré, c'est plus qu'à Paris.
Mais c'est sûr que de toute manière, on ne peut pas acheter de revenus conséquents.
Un niveau de vie dans cette petite commune qui reflète le portrait robot des Français les plus riches, établi par l'INSEE. L'Institut décrit le Français riche comme un homme sans enfant, âgé entre 50 et 69 ans, qui cumule des revenus importants et du patrimoine. Côté salaire, 1% des postes salariés dans le privé sont rémunérés plus de 10 219 euros par mois. C'est même jusqu'à plus de 27 000 euros chaque mois pour les 0,1% des postes les mieux rémunérés. Des salaires élevés, mais des impôts ces 20 dernières années encore plus importants.
Les très hauts revenus ont eu encore plus de patrimoine, mais globalement, ils ont aussi payé davantage d'impôts, même si leur taux d'imposition a baissé, ce qui n'est pas le cas des plus modestes.
L'étude dresse aussi le top 100 des salariés les mieux payés en France. On y retrouve bien sûr des chefs d'entreprise et des cadres dirigeants, mais aussi 36 footballeurs de Ligue 1.
L'émotion maintenant, l'émotion très vive hier à Marseille lors des obsèques de Mehdi Kessassi, le frère d'Amine, ce militant engagé dans la lutte contre le narcotrafic, s'est escorté par des policiers du raid et muni d'un gilet pare-balles qu'il a accompagné à la dépouille de son frère.
Le quartier était bouclé, surveillé par des policiers lourdement armés, dispositif exceptionnel, alors que la piste d'un assassinat d'intimidation reste privilégiée. Intimidé, il ne l'est pas. Amine Kessassi, Guillaume Daré, il prend la parole ce matin dans une tribune au Monde.
Oui, tout à fait, chez nos confrères, avec ces mots extrêmement forts, dit-il. Hier, j'ai enterré mon frère et aujourd'hui, je parle et je ne me tairai pas parce que ma mère m'a appris à ne pas baisser la tête. Levons-nous ensemble, courage, on ne peut pas tuer tout un peuple. Il ajoute même, face à un tel ennemi, l'État doit prendre la mesure de ce qu'il se passe. Une lutte à mort est engagée, il est temps d'agir, nous comptons nos morts. Je vous rappelle que le président de la République a réuni les ministres et les chefs, évidemment, de la police judiciaire, notamment hier au Palais de l'Élysée, qu'il a promis de le faire à nouveau mi-décembre et de se rendre à son tour à Marseille.
Les mots très forts ce matin d'Amine Kessassi, ministre de la Justice et de l'Intérieur, qui seront jeudi donc à Marseille. Il y a une marche blanche qui est prévue samedi. Et dans ce contexte, à Nancy, le parquet annonce le démantèlement d'un important trafic de stupéfiants, 10 personnes ont été placés en garde à vue.
Oui, 95 policiers mobilisés pour cette opération. Les perquisitions ont permis de saisir plus de 15 kilos d'héroïne, 4 kilos de cocaïne et 10 kilos de cannabis pour une valeur d'environ 1,5 million d'euros, ainsi que des armes. Avec la sécurité, c'est une autre grande préoccupation des Français, Périne, pour les élections municipales. Dans quelques mois, la santé et l'accès aux soins face à la problématique des déserts médicaux, eh bien, certaines communes rivalisent d'ingéniosité, vous allez le voir, pour maintenir les services.
Illustration à Châteauneuf de Randon, c'est un petit village de Lozère, où une pharmacie de secours a carrément été installée au cœur de la mairie. Anatole Stoss et Romain Etchan.
Sur la façade de la mairie, une croix verte signale la présence de la pharmacie. À l'intérieur, les patients se réjouissent de ce nouveau service.
Ça change que c'est plus pratique, puis Châteauneuf revit un peu. Tandis qu'il n'avait plus rien. Plus de docteurs, plus de pharmacie, plus rien.
Avant l'été dernier, les habitants devaient parcourir 20 km aller-retour pour atteindre la première pharmacie. Désormais, les patients viennent dans ce local municipal transformé en officine, heureux de retrouver un lieu de vie.
Et puis pour eux, c'est pas juste une pharmacie. C'est une personne qui est là avec un sourire, un contact, un accueil. On a tendance à faire leur déclaration d'impôt, à les aider quand ils ont un souci du quotidien, en fait. Pas forcément sur du soin.
Pour le maire, cette pharmacie est bénéfique, mais un bémol subsiste. Aucun médecin n'exerce dans sa commune. Pour compenser ce manque, il a installé une cabine de téléconsultation au sein de la mairie. Mais aujourd'hui, il lance un nouvel appel.
Il manque un médecin, ou deux, ou trois même. D'ailleurs, je lance un appel, hein, parce que je pense que sur le Châteauneuf, il y aurait la place de deux ou trois médecins.
Selon l'INSEE, la Lozère dispose de 264 médecins pour 100 000 habitants, un des taux les plus faibles à l'échelle nationale.
L'actualité à l'étranger, au Liban, une frappe de l'armée israélienne a fait au moins 13 morts dans un camp de réfugiés palestiniens selon les autorités locales. Tsahal affirme avoir visé de son côté un camp d'entraînement du Hamas. Le mouvement islamiste dénonce une attaque barbare.
Le Liban accueille environ 222 000 réfugiés palestiniens selon l'ONU, dont une grande partie vit dans ces camps. L'IGPN, la police des polices, épinglée dans un rapport de l'ONG flagrant déni. L'association dénonce une hausse des cas de violences policières et surtout très peu de sanctions.
L'inspection générale ne traiterait qu'environ 10% des enquêtes pénales visant des policiers. Bettina de Guglielmo, Alexandra Gonzalez et Olivier de Saint-Paul.
Le rapport de l'ONG révèle des chiffres inédits, notamment sur le taux d'élucidation en baisse depuis 2016. Le nombre d'affaires de violences impliquant des dépositaires de l'autorité publique a augmenté de 59% en 9 ans, mais les affaires élucidées, elles, ont chuté de 25%.
On a obtenu des chiffres inédits jusqu'à présent du ministère de la Justice qui montrent que d'une part, donc depuis 2016, la capacité de la justice de manière générale à identifier les auteurs en cas de violence policière a la tendance à baisser. Si on compare les affaires de violence policière avec les violences en général, la justice se retrouve deux fois moins souvent les auteurs quand il s'agit de policiers.
L'ONG Flagrant Déni, qui se consacre aux droits des victimes de violences policières, pointe du doigt un manque de transparence. Déjà depuis 2018, l'IGPN est en manque d'effectifs. L'inspection nationale ne traiterait qu'environ 10% des enquêtes pénales visant des policiers. 90% des autres affaires atterrissent sur des bureaux de services de police judiciaire classiques ou des cellules de déontologie départementale, moins partiales selon l'ONG, qui dénonce un système où ce sont les potes qui enquêtent sur leurs propres collègues.
Du point de vue des critères de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est clairement illégal. On a une proximité hiérarchique et une proximité culturelle entre collègues qui est très très forte. C'est impossible de faire des enquêtes dans des conditions d'indépendance avec cette organisation.
De son côté, la Direction générale de la police nationale conteste cette lecture et se défend. Selon elle, l'IGPN se concentre sur les affaires les plus graves et les plus sensibles et précise que le taux d'élucidation globale des affaires traitées par l'inspection est entre 95 et 100%.
Et le patron de l'IGPN, Stéphane Ardouin, sera l'invité tout à l'heure à 11h de Julien Arnaud.
Elles adoucissent l'entrée dans l'hiver partout en France. Vous le savez, les communes commencent à installer.
Ah, j'ai cru qu'on reparlait des raclettes.
Non, mais aussi. ça va revenir, rassurez-vous, Guillaume.
Ça adoucit aussi l'entrée dans l'hiver.
À Noël, il y a les raclettes et il y a la déco également.
Les
la déco et les illuminations de Noël commencent à apparaître dans nos communes.
C'était l'événement dans la rue à côté de chez moi hier soir. Le maire a allumé les illuminations.
Ah ben voilà.
Donc tous les commerçants du quartier attendaient ça avec impatience.
Ça veut dire regarder le sapin.
Il y a de la neige sur le plateau.
Il neige
sur le plateau. Première neige de la saison. Bah oui, faites le sapin. Et avec, comme chaque année, les grandes réunions de famille pour décider la déco. Quel type de déco?
Quelle couleur?
On peut pas en faire comme ça, il n'y a pas de...
C'est à la mode, vous savez, le sapin neutre. Mais alors, il y a une autre mode aussi, si on oublie l'originalité, tout ça, on vient dans un côté très vintage. Ah. Avec les gros neuneux.
Ça me plaît, ça.
Les rubans en velours.
Ouais, j'aime le côté tradit.
Ça peut aussi. Grand, voilà.
Le jardin, préféré le renne éclairé ou le petit moutin.
Moi, j'aime bien le renne éclairé.
C'est
vous voyez
vintage, c'est
Moi, j'aime la décoration tradit. Et ouais. Je sais que c'est à la mode en plus.
Surtout qu'un jour, mais il faudra quand même qu'on monte votre maison. Il a une maison de téléfilm de Noël, je vous assure. On montrera ça quand la déco sera faite. Regardez ces décorations traditionnelles qui reviennent en force. On va faire son marché ce matin avec Anatole Stoss et Hortense Gérard.
Dans cette véritable caverne d'Ali Baba dédiée à Noël, les décorations s'entassent du sol au plafond. Les clients viennent y chercher la pièce qui fera la différence.
Toujours au coup de cœur.
Okay. Voilà, tout simplement. Donc, je fais toutes les boutiques. Si je vois quelque chose qui me plaît, je prends. Et puis, voilà, ça s'arrête là. Mais c'est pour tout pareil, moi.
Ici, les santons de Provence et les crèches en bois sculpté sont les stars. Les clients sont attirés par ces produits traditionnels avec un objectif, trouver des décorations de qualité.
Je crois qu'il faut, ce qu'il faut voir, c'est le contexte de la boutique, en fait. C'est qu'ils savent très bien que moi, je fais suivant mes goûts. J'essaye d'avoir des choses très particulières, des choses de qualité.
Dans sa boutique, une foule d'ornements entièrement faits à la main et une couronne de l'Avent, prête à embellir un foyer. Pour ses décorations de Noël, cette influenceuse a choisi la simplicité, symbole d'un Noël résolument classique.
C'est les petits nœuds, de toutes les formes, toutes les tailles. Là, vous voyez, c'est un nœud à peu près de taille moyenne. On le voit derrière, d'ailleurs, j'en ai utilisé plusieurs dans la maison. Fait la petite touche rouge d'un Noël traditionnel. Et ça plaît beaucoup.
Près de 3 Français sur 10 décorent leur sapin de Noël de manière traditionnelle.
Allez, on attend la décoration de chez Dominique.
Ah bah oui, on aura une petite vidéo. C'est promis, c'est quand ? C'est ce week-end la déco ?
Non, c'est le week-end prochain.
Ah, c'est le week-end prochain, attention. Tout de suite, vous rendez-vous santé, culture et politique.
Retrouvez votre rendez-vous avec EBS Énergie. EBS Énergie, financeur de vos travaux de rénovation énergétique.
Retrouvez votre programme avec Fortuneo, numéro 1 au classement des banques les moins chères. Fortuneo, j'aime ma banque.
Ouais. Qu'ont en commun Charles Darwin, Emmanuel Le Chypre et Yoda?
Ils sont chauds.
La sagesse.
La sagesse.
Ils ont des petites entrées, oui, vous voyez, là. D'ailleurs, je suis en train de regarder, il y a des petites entrées aussi, ici, là. Bon. Alors, justement, il y a une méthode qui devient de plus en plus virale ces dernières années, qui est particulièrement mise en avant, Aurel Guège. C'est ce drôle de casque que vous avez sur la tête. Qu'est-ce que c'est que ça?
Oui. Ce drôle de casque, eh ben, ça fonctionne, hein. C'est un casque à LED, à lumière. Tiens, je te le donne, Alix, hein, si tu veux, comme ça.
Moi, j'ai encore pour mes la démonstration. Cheveux, mais...
Voilà. Donc, c'est un casque à LED, ça fonctionne. Mais comment ça fonctionne? Ça fonctionne par photo-bio-modulation. La réponse est dans le nom. En fait, photo, c'est de la lumière. Bio, c'est la vie. Et modulation, ça va jouer directement sur les éléments de vie, donc la cellule, sur les cellules responsables de la croissance du cheveu. Par la lumière. Mais alors, faut aussi comprendre quelle est la cause, comment ça fonctionne, et pour ça, eh ben en fait, il faut connaître le cycle du cheveu. Votre cheveu va passer par plusieurs étapes et va faire des cycles à répétition. D'abord, une première étape de croissance qui va durer entre 2 et 7 ans. C'est là où on se rend compte qu'il y a quand même une vraie variabilité entre les individus. Une deuxième phase, une phase transitoire qui dure 1 à 2 semaines, le cheveu se met en arrêt, il va rétrécir, et puis une phase de repos. Comme pour l'agriculture, en fait, le cheveu va se mettre en jachère, et là, ça va durer plusieurs mois, et c'est variable.
Sur la
en
tête.
Fonction des individus. La particularité, c'est qu'en fait, eh bien, sur la phase de croissance, on va vouloir la rallonger, et sur la phase de repos, on va vouloir la raccourcir. Eh bien, c'est ce qu'on fait avec les traitements médicamenteux, et c'est aussi ce qu'on fait avec ce magnifique casque. L'idée derrière, c'est en fait de raccourcir la phase de repos et de vraiment rallonger la phase de croissance pour que vous ayez plus de cycles à votre disposition.
Ça pousse, attendez, ça fonctionne vraiment, ce casque-là?
Ah oui,
ça fait repousser les cheveux ou ça freine la chute, c'est quoi?
Ah, vous avez tout dit. Ça fonctionne dans certains cas. Ça fonctionne, en fait, dès que vous avez l'indication pour les traitements médicamenteux classiques comme le finastéride, le minoxidil, c'est-à-dire des traitements où c'est pour, entre guillemets, ralentir la perte de cheveux, vous allez pouvoir y aller. C'est indiqué que lorsque vous avez ce qu'on appelle une alopécie modérée, donc le début de golf, des cheveux, une faible densité. Et l'idée, en fait, c'est, comme je l'ai dit, ça ne va pas faire revenir le cheveu, ça va permettre de le faire durer plus longtemps, ça va permettre d'avoir une meilleure densité, mais si vous êtes totalement chauve, malheureusement, ce ne sera pas la panacée.
Et ça coûte combien ce petit casque là?
Alors, ce petit casque qui coûte entre 500 et 1000 euros. Là, je vous ai amené un
modèle. C'est moins cher qu'une. C'est bien moins cher.
Mais là, je sens que j'ai plus de cheveux.
Alors, ça met quand même un peu de temps. Il y en a pour quelques mois.
Tout voulu.
3 à 4 mois.
C'est moins cher que la greffe.
C'est moins cher que la greffe. Et là, par exemple, je vous ai mis un modèle où on est à 1000 euros à peu près, mais c'est entre 500 et 1000 euros un casque logiquement habituellement.
C'est moins cher que la greffe, mais donc c'est pas.
C'est pas la solution. Si vous n'avez pas, ça ne remplace pas le cheveu. Ça permet de compenser.
Alix,
vous êtes venu avec ce que vous appelez un chef-d'œuvre contemporain.
Oui.
Je reprends vos mots, ça s'appelle Podum. C'est signé Hubert au scénario et Zanzim, c'est ça?
Oui.
Zanzim au dessin. Et si le titre vous dit déjà quelque chose,
c'est assez normal parce que c'est un phénomène.
Oui, c'est déjà un phénomène depuis 4 ans. 220 000 exemplaires déjà vendus, multiprimés, 14 prix traduits dans une dizaine de langues. Cette BD a déjà tout raflé. Je vous ai rapporté la version collector qui vient tout juste de sortir. Alors pourquoi je parle d'un chef-d'œuvre ? Alors déjà, l'idée est originale. C'est l'histoire de Bianca. Ça se passe pendant la Renaissance. C'est une jeune fille qui va épouser un homme. Mais bon, voilà, à l'époque, on ne peut pas rencontrer son mari avant le mariage. Et donc, elle va se glisser littéralement dans la peau d'un homme. Et là, eh bien, elle va découvrir la liberté. Elle va pouvoir défier les codes. Ça se passe pendant la Renaissance, mais les thèmes sont très actuels. On parle surtout ici de l'émancipation des femmes, de l'émancipation féminine. C'est drôle, c'est fin, c'est audacieux, c'est somptueux.
Et puis, le livre est magnifique. L'édition collector que vous avez est
super idée cadeau.
Super idée cadeau pour Noël, effectivement. Depuis 4 ans, en tout cas, le succès, c'est vrai, continue.
Oui, puisque donc il y a eu la BD. Cette année, on a découvert la pièce de théâtre. C'est une comédie musicale qui est très très fidèle à l'esprit de la bande dessinée et surtout qui est sublimée par les chansons écrites par Ben Mazuet. On regarde un petit extrait. Après la bande dessinée, après la pièce de théâtre, à votre avis, qui va s'emparer de ce succès ?
Netflix, cinéma.
Le cinéma, ah. Oui. Alors, ce ne sera pas sur Netflix. Ce sera donc une comédie musicale. Là aussi, le casting est hyper alléchant. On retrouvera la chanteuse Pomme, le chanteur Eddy De Pretto, l'actrice Karine Viard. Et ça, c'est un petit clin d'œil à Podane. On retrouvera aussi Catherine Deneuve.
Évidemment.
On n'a pas encore la date de sortie, mais évidemment, comptez sur moi pour vous en parler.
Très, très beau livre aux éditions Glénat. Voilà un superbe cadeau de Noël. Merci, Alix.
Dans un tout autre genre, Guillaume... La politique avec vous, Laurent Wauquiez. Voilà, on parle de Laurent Wauquiez ce matin qui sème la pagaille chez les Républicains. L'ancien président de la région Auvergne-Rhône-Alpes est partisan d'une primaire de la droite pour choisir le meilleur candidat pour la prochaine présidentielle. Mais voilà, ces méthodes ne font pas franchement l'unanimité.
Oui, dans le viseur de ses rivaux, effectivement, il y a son activisme de ces dernières semaines à rencontrer un peu tout le monde. La semaine dernière, c'était Éric Zemmour, le patron de Reconquête, quelques jours. Plutôt, c'était Gérald Darmanin en marge d'un déplacement du ministre de la Justice à Lyon. Il multiplie les rencontres. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, Laurent Wauquiez est convaincu que si la droite, au sens large du terme, veut avoir une chance de l'emporter lors de la prochaine élection présidentielle, il faut un seul et même candidat. Par quelle modalité, dit-il ? Par une primaire, la plus large possible. Il veut, lui, qu'elle aille de Sarah Knafo à Gérald Darmanin.
C'est large. À qui ça ne plaît pas, du coup ?
Alors, à beaucoup, mais notamment à l'ancien Premier ministre Michel Barnier, qui a un peu cassé l'ambiance, si j'ose dire. Hier, en fait, ce qui est reproché à Laurent Wauquiez, c'est donner le sentiment de négocier en tant qu'un chef de parti, qu'il n'est plus aujourd'hui, puisque je vous rappelle que le patron du parti, c'est Bruno Retailleau. Et donc, hier, c'est un petit peu le message qui a été passé à Laurent Wauquiez, c'est-à-dire finalement, au nom de quoi et au nom de qui est-ce qu'il mène ces discussions-là ? L'entourage de Laurent Wauquiez précise qu'il discute avec tout le monde parce qu'il faut effectivement essayer d'intégrer le plus de personnes possible dans cette éventuelle primaire, mais le problème, c'est qu'il n'en a aucun mandat.
Et Bruno Retailleau, précisément, il réagit comment, lui ?
Il fait avec, si j'ose dire. C'est ce que me disait hier l'un de ses proches. Officiellement, il n'était au courant de rien, ce conseiller de Bruno Retailleau, qui me dit que c'est par la presse qu'il a appris ces différentes rencontres. Regardez ce qu'il me disait. C'est un truc à l'avocat. Qui pourrait imaginer qu'il va demander son autorisation à Bruno Retailleau ? Finalement, c'est un nouvel épisode, effectivement, de cette guéguerre pour le leadership chez les Républicains entre Bruno Retailleau, président élu mais affaibli par sa sortie du gouvernement, et Laurent Wauquiez qui finalement retrouve un peu d'air ces dernières semaines, avec, regardez aussi cette petite phrase, parce que ça crée un peu la pagaille à droite, c'est emmerdant, me disait ce conseiller, parce que c'est le retour du tout à l'ego de la droite, où chacun veut une primaire selon les modalités qui l'arrangent. La pagaille à droite, la voici, la primaire, on n'y est pas encore tout à fait.
Voilà, ambiance, toujours du côté des Républicains.
Voilà.
À la une du journal de 7h, vous restez avec nous, un document exceptionnel. Au cœur d'un transfert de prisonniers, les caméras de BFM TV ont pu suivre l'arrivée d'un détenu à la nouvelle prison de Condé-sur-Sarthe, image rare à découvrir dans un instant.
Et puis à 7h10, la question du jour, faut-il interdire, à l'instar des Britanniques, les phares LED sur nos routes ? Ils remplacent petit à petit les phares halogènes sur les nouvelles voitures et ils peuvent être dangereux pour les conducteurs.
Il est bientôt 7h, bienvenue. On est ravis avec Perrine de démarrer la journée à vos côtés. À la une ce matin, ce document exceptionnel. Les caméras de BFM TV ont pu suivre le transfert d'un détenu vers la nouvelle prison de haute sécurité de Condé-sur-Sarthe. L'établissement doit accueillir d'ici la fin du mois une quarantaine de prisonniers parmi les plus dangereux du pays.
Pour la sauver des griffes d'un escroc, les enfants d'une septuagénaire viennent de porter plainte. Elle est persuadée de vivre une histoire avec le chanteur Pierre Garnier. Une arnaque au sentiment qui lui a déjà coûté plusieurs milliers d'euros.
Un pas supplémentaire vers une interdiction des réseaux sociaux aux jeunes adolescents. Hier, les pays européens sont tombés d'accord sur le principe d'une loi. La France veut limiter l'accès aux plateformes aux moins de 15 ans.
Et puis à 7h15, notre question du jour. Faut-il interdire, à l'image de nos voisins britanniques, les phares LED sur nos routes? De nombreux conducteurs se plaignent depuis plusieurs années d'être aveuglés ou éblouis la nuit, avec le risque de rendre la conduite dangereuse.
Alors ce sont des images rares que nous vous proposons ce matin sur BFM TV, alors que la prison de haute sécurité de Condé-sur-Sarthe, la deuxième du genre en France, est entrée en service il y a quelques jours. Nous avons pu exceptionnellement filmer, Perrine, le transfert de l'un des détenus.
Ils seront une quarantaine au total à rejoindre la prison d'ici la fin du mois, tous considérés comme extrêmement dangereux, appartenant pour la plupart au crime organisé. C'est donc une opération à très haut risque que nos caméras ont pu infiltrer. Chloé Berthaud, Tanguy Tricouard avec Milan Argelas.
Bonjour, c'est Eric, c'est à votre transfert.
6h15, le détenu est extrait de sa cellule.
Voilà, vous ne vous inquiétez pas de ça, vous nous suivez et nous on va s'occuper de votre pactage.
Place ensuite à la fouille.
Donc fouille en cours au niveau du greffe.
Et à la levée d'écrou, l'acte administratif qui officialise la sortie du détenu de l'établissement.
Prise en charge, ok. Le détenu il est passé en cellule d'attente au niveau du greffe. On va faire la levée d'écrou. Oui, il est là avec moi. Ouais.
À peine sorti de la prison, l'homme monte dans le fourgon. Départ du centre pénitentiaire de Moulins-Isère aux alentours de 7h15. Direction la prison de haute sécurité de Condé-sur-Sarthe. Comme lui, une petite dizaine de détenus ont été transférés hier.
C'est évidemment des transferts qui, au regard de la dangerosité et du risque d'évasion de ces détenus, sont très particuliers, puisque on a un niveau de sécurité très élevé. Cette mobilisation vise à répondre à deux objectifs. C'est un, limiter le risque d'évasion, et deux, garantir tout simplement la sécurité des personnels qui garantissent ces transferts.
Gérald Darmanin a annoncé la semaine dernière le transfert d'une quarantaine de détenus à la prison de haute sécurité de Condé-sur-Sarthe d'ici la fin du mois. Ce quartier de lutte contre la criminalité organisée devrait accueillir au total une centaine de prisonniers.
C'est une hausse qui n'était pas prévue, en tout cas pas par les propriétaires. Si c'est votre cas, Bercy vous a réservé une petite surprise. Préparez-vous à voir votre taxe foncière augmenter l'an prochain.
63 euros en moyenne, et ça même sans tenir compte de l'inflation. On y reviendra avec Emmanuel Le Chypre à 7h20 dans sa chronique Écho. On voulait aussi ce matin, avec Perrine, vous raconter l'histoire de cette septuagénaire belge aux mains depuis quelques mois d'un escroc. Un escroc qui se fait passer pour Pierre Garnier, vous savez, le vainqueur de la Star Academy.
Et je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques temps, il y avait une dame exactement qui s'était fait arnaquer par un faux Brad Pitt. Et là, c'est à peu près la même histoire, sauf que la victime, elle ne veut rien entendre. Elle a même coupé les ponts avec ses enfants qui ont décidé de porter plainte pour tenter de la sauver. Ils ont témoigné hier soir sur BFM TV. Bettina de Guglielmo.
Cette Belge de 73 ans pense encore aujourd'hui vivre une histoire d'amour avec le grand gagnant de la Star Academy, Pierre Garnier. Victime d'une escroquerie au sentiment sur les réseaux sociaux, son fils et le compagnon de ce dernier tentent de la faire sortir de cette emprise.
Ben, elle me répond tout simplement que c'est le vrai Pierre parce qu'il lui a envoyé des photos. Elle disait que nous, on avait tort, que c'était du blabla, qu'on lui veut du mal. Mais elle est dans sa bulle, elle est enfermée avec cet escroc et elle ne veut rien entendre.
Sa famille a déposé plainte, mais le mal est fait. La septuagénaire aurait déjà versé près de 7000 euros à cet arnaqueur.
Quand elle reçoit sa pension de veuve, elle verse tout ce qu'elle a à cet escroc.
La semaine prochaine, il y a encore un virement de 800 euros qui doit, 700 ou 800 euros qui doit partir.
Et encore fin décembre.
Autre cas, celui de Stéphanie à Montréal, victime d'une arnaque par un faux grand corps malade.
Je reçois une demande d'amis sur Messenger de Fabien Marceau, je ne sais pas qui c'est, puis je vois que c'est le nom civil de grand corps malade.
Une relation épistolaire s'installe. Les vidéos qu'elle reçoit sont probantes, mais générées par une intelligence artificielle.
Je voulais te rencontrer, te faire une vraie bise, mais t'es pas là, on t'attend.
Très vite, l'individu lui demande de l'argent, prétextant que son fils devait être hospitalisé à Toronto et que les frais devaient être avancés.
Quand on regarde un peu avec la police aujourd'hui les documents, tout le monde aurait pu s'y méprendre en fait, parce que c'était d'une véracité incroyable.
Franco-canadienne, Stéphanie a porté plainte en France et au Canada. Dans cette arnaque, elle a perdu l'équivalent de 20 000 euros.
Non mais c'est bluffant. Les vidéos de grand corps malade.
Le faux Brad Pitt encore, les photos étaient assez trafiquées.
Mais là, avec l'IA, c'est vrai qu'on s'y méprend facilement. Question à présent ce matin, l'Europe deviendra-t-elle bientôt le premier continent à interdire les réseaux sociaux aux jeunes ados?
Oui, un sommet consacré à cette question de la majorité numérique s'est tenu hier à Berlin. Et les pays membres sont tombés d'accord sur une loi pour protéger les plus jeunes. Reste maintenant à fixer l'âge. La France, de son côté, plaide pour limiter l'accès aux plateformes au moins de 15 ans, Thomas Errigo, Blandine Dalena, Raphaël Grably avec Antoine Fernandez.
Le sujet est régulièrement relancé. Faut-il mieux encadrer l'accès aux réseaux sociaux pour les plus jeunes? Lorsque nous vous interrogeons, la réponse semble assez évidente.
Moi je pense que c'est très bien, parce que moi j'ai eu les réseaux sociaux hyper jeunes et je sais que c'était pas du tout bien dans mon développement.
Ah oui, harcèlement.
Oui, etc. Même tout ce qui est harcèlement et tout.
Je pense que c'est une très bonne idée de définir un âge limite, parce qu'effectivement il y a une dérive sur l'accès des jeunes aux réseaux sociaux.
C'est en tout cas le souhait des députés macronistes qui ont déposé hier une proposition de loi. Plusieurs options sont sur la table. Interdiction et suppression des comptes de moins de 15 ans, mais aussi instauration d'un couvre-feu numérique pour les 15-18 ans. Cette députée est à l'origine de la proposition. Selon elle, il est urgent d'agir.
On avait ce constat de l'impact négatif des réseaux sociaux et de leur usage excessif sur la santé mentale des jeunes et que malheureusement, depuis plusieurs années, malgré ce constat, on n'avait pas d'action concrète.
Une proposition de loi qui pourrait, si elle était votée, se transformer en casse-tête législatif avec des règles européennes contraignantes. Mais Laure Miller l'assure, le droit européen change et pourrait permettre ces restrictions.
Depuis cet été, la Commission européenne nous permet de légiférer en droit interne, en droit national. Nous pouvons agir en droit interne et poser cette interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans, en l'occurrence en droit national.
D'autres pays ont déjà mis en place des mesures similaires. En Australie, dès le 16 décembre, tous les réseaux sociaux seront interdits aux moins de 16 ans.
Chacun a le droit d'exprimer ses convictions. Les artistes aussi, quelques jours après les propos polémiques d'Alain Souchon sur le RN, Pierre Arditi lui apporte son soutien.
Le chanteur avait déclaré chez nos confrères de RTL, je le cite, ne pas croire que les Français soient assez cons pour élire un président RN. Et sur BFM TV, Pierre Arditi s'est dit d'accord sur tout et il défend le droit de donner son avis.
Lui, il l'a fait d'une certaine manière sous le sceau de la plaisanterie, en disant si c'est comme ça, je pars en Suisse. Bon, évidemment, on pensait bien que. Évidemment, il n'en pense pas un mot. C'est lui, il fait une espèce de galéjade. Donc, compte tenu du contexte, évidemment. Et pour une certaine catégorie de politique, ils se sont jetés dessus en disant voilà, c'est un bobo germano-pratin. Non, ce n'est pas un bobo germano-pratin. Il n'a pas envie de voir arriver au pouvoir l'une des parties extrêmes de notre pays. Ce n'est pas la seule, d'ailleurs, il y en a d'autres, dans l'autre bord politique. C'est comme ça. Bah, il a balancé ça comme ça, mais il n'est pas plus bobo que moi ou que d'autres. On a des convictions, on a le droit de les exprimer comme on veut. Chacun enterre ses morts comme il veut. Hein, voilà, c'est comme ça.
Les artistes doivent-ils continuer à s'exprimer sur ces sujets politiques? Est-ce qu'ils sont déconnectés?
Mais ma réponse, rendez-vous tout à l'heure.
Voilà, 8h45, le débat. Guillaume Daré, Laurent Neumann. On en vient à présent à cette histoire de Rolex, de lingots d'or, ce matin, qui semble avoir aidé au rapprochement entre la Suisse et les États-Unis.
Ouais, il y a quelques jours, une délégation suisse était reçue à Washington pour tenter d'amadouer Donald Trump et de faire baisser, en quelque sorte, les tarifs douaniers imposés par les États-Unis. Eh bien, opération réussie, accord conclu. Il faut dire que les Suisses n'ont pas manqué d'arguments pour séduire le président Antoine Lard.
Oui, absolument. En fait, il y a un mode d'emploi pour se mettre dans les bonnes grâces de Donald Trump et s'assurer que tout se passe bien lorsqu'on le rencontre. Il faut d'abord le couvrir de louanges et puis ensuite lui offrir des cadeaux, si possible quelque chose qui brille ou de clinquant. Et c'est effectivement ce qu'a fait cette délégation suisse des grands patrons qui avaient rendez-vous dans le bureau Oval. Ils ont offert à Donald Trump un lingot d'or personnalisé, lingot d'un kilo, valeur 130 000 dollars. Ils lui ont offert également une montre Rolex en or. Au départ, ils avaient envisagé une montre en platinium avant de se raviser, de se rappeler que Donald Trump préfère l'or. Et cette opération séduction, elle a fonctionné. La Suisse, qui était étouffée par des droits de douane à 39%, a réussi à faire baisser la note. Les taxes sont passées à 15%, selon la presse américaine. C'est cette rencontre et ces cadeaux qui ont permis de débloquer la situation. Alors, du côté de la Maison-Blanche, n'allez surtout pas leur dire qu'il s'agit de corruption. La Maison-Blanche affirme que ces cadeaux seront transférés à terme dans la bibliothèque Donald Trump, qui sortira de terre dans 4 ans et qui recensera tous les objets, tous les cadeaux que Donald Trump a reçus pendant sa présidence.
Merci Antoine Hollard depuis les États-Unis pour BFM TV. L'écho dans un instant. Bercy annonce une hausse de la taxe foncière pour 7 millions de foyers l'an prochain. Pour des raisons de confort, figurez-vous. Emmanuel Huchy reviendra nous expliquer tout ça.
Et puis à 7h10, la question du jour. Faut-il interdire à l'instar des Britanniques les phares LED sur nos routes qui se révèlent très agressifs pour l'œil et parfois dangereux pour les conducteurs?
On est de retour dans moins de 2 minutes. Restez avec nous. Ravi de démarrer la journée avec vous. On va se poser une question. On va parler des phares aujourd'hui. Qui n'a jamais été ébloui ou bien aveuglé par un phare de voiture, au point même de rendre la conduite dangereuse? Alors que nos voisins britanniques sont sur le point de légiférer pour interdire ces phares trop éblouissants, on se pose la question, faut-il faire de même en France? C'est notre question du jour.
Et on sera dans un instant en ligne avec Yves Carra, qui est porte-parole de l'association Mobilité Club France. Mais d'abord, ce reportage et vos témoignages, signé Alexis Rodriguez, Agathe Pichon, avec Blandine Dalena.
De nuit, les automobilistes que nous avons rencontrés sont nombreux à devoir faire des appels de phares aux voitures venant d'en face.
Sur la route, les gens, ils n'enlèvent pas leur plein phare. Déjà, ils ont des phares très très puissants et ça fait mal aux yeux.
Je fais pas mal de routes de nuit et certains éclairages la nuit éblouissent plus que d'autres et parfois on est un peu gêné.
Avec son SUV, Wilson fait partie de ceux qui éblouissent.
C'est les phares xénon, donc ils sont assez puissants. C'est vrai que les phares de maintenant, ils éblouissent vraiment plus que les phares d'avant.
Et c'est pourquoi cette nouvelle génération de phares est dans le viseur du gouvernement britannique. Selon une étude menée par des chercheurs anglais, 8 des 10 véhicules les plus associés à l'éblouissement sont équipés de LED. Mais pour ce concessionnaire, certes, ces ampoules sont plus lumineuses, mais elles sont surtout mal utilisées.
Au niveau de la hauteur, par exemple, des fois les phares sont réglés naturellement en position haute. Généralement, les usagers ne pensent pas à régler la position des phares. Et on va retrouver ces problèmes-là généralement sur des SUV. Parce que lors des accélérations, par exemple, la position des phares, le véhicule cambre un peu, donc ça lève un peu la position des phares, donc ça peut éblouir l'usager.
En 2027, le Royaume-Uni va imposer un système de réglage automatique des phares, en fonction notamment de la charge du véhicule.
Yves Carra, le problème, ce sont les phares LED ou ce sont les conducteurs qui les règlent mal et qui les utilisent mal?
Oui, des phares bien réglés, ils n'ont pas de raison d'éblouir plus que ça. C'est vrai que ça a été dit, si on reste en plein phare, on éblouit. Et vous savez, il y a des voitures qui, même en plein phare, ont un système qui fait que le phare gauche est s'oriente tout seul et que le phare gauche de façon à ne pas éblouir en face. C'est un système automatique sur certaines voitures, c'est plutôt très pratique. Mais des phares bien réglés, normalement, il n'y a pas de raison d'éblouir si vous êtes en feu de route, en feu de croisement.
Est-ce qu'il est, selon vous, souhaitable de légiférer, comme le Royaume-Uni est sur le point de le faire, ou alors c'est peine perdue parce que de toute façon, ces phares LED, aujourd'hui, ils équipent quasiment toutes les voitures neuves?
Oui, alors les phares LED qui sont plus chers à fabriquer et à remplacer quand on les casse, parce qu'il faut changer toute l'optique, donc vous êtes à plusieurs milliers d'euros au lieu de juste quelques centaines d'euros, ça peut être un problème aussi. C'est surtout sur les voitures premium, évidemment. Alors, à ma connaissance, le sujet n'est pas sur la table, mais peut-être qu'il viendra dans quelques temps. Maintenant, il y a des systèmes pour se protéger de l'éblouissement la nuit et pour reposer ses yeux.
Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques à respecter?
Oui, c'est ce que je disais, tout à fait. Quand on déjà bien régler ses phares, alors vous mettez face à un mur, et si vous en voyez un qui est en l'air ou qui est trop bas ou trop haut, soit vous le réglez vous-même avec une petite molette, qui est en général sur les voitures, soit vous l'amenez chez un garagiste. Maintenant, il y a ce qu'on appelle pour conduire la nuit des lunettes spéciales pour conduire la nuit qui sont de couleur jaune. Alors, soit des lunettes qu'on met sur ces lunettes de vue. On en vend sur notre site mobilitéclub.fr. Moins de 20 euros, c'est un très beau cadeau de Noël. Allez-y, c'est très utile. Et puis le petit système aussi, c'est un petit truc, c'est que quand vous avez une voiture qui est en plein phare en face de vous, alors vous les prévenez bien évidemment qu'il faut qu'il arrête d'être en plein phare, mais pour ne pas être ébloui et flashé sur votre rétine, vous regardez le côté droit, vous voyez, le bas-côté droit de la route pendant le temps de croiser la voiture. Donc vous avez toujours la vision périphérique, évidemment, mais au moins vous n'êtes pas flashé. Et c'est un très bon système. C'est mon père qui me l'avait donné, ce système.
Les conseils de papa.
Voilà,
regardez quand même un œil sur la route, c'est aussi.
Oui, oui, non, mais bien sûr, on a la vision périphérique, mais pour pas être ébloui, on oriente ses yeux sur le bas-côté droit devant, et c'est très pratique le temps de croiser la voiture.
On a bien compris la petite astuce. Merci beaucoup Yves Carra. On évoquait, Perrine, il y a quelques jours dans cette émission, la difficulté que rencontraient de nombreux restaurateurs dans cette période compliquée, avec un chiffre révélateur. Chaque jour en France, 25 établissements, 25 restaurants mettent la clé sous la porte.
Cette baisse de la fréquentation, une restauratrice de l'Ariège l'a connue pendant plusieurs mois. Alors pour attirer les clients, elle a décidé de lancer une formule anti-crise à moins de 10 euros. Résultat, succès immédiat. Maxime Meunier et Adrien Spiteri.
Laure court de table en table, car pour le déjeuner, son restaurant est presque complet. La raison de ce succès, c'est ce menu.
Entrée plat ou plat dessert, 9,90 et avec le dessert, 11,90.
Pour ce prix, les clients peuvent par exemple déguster de la terrine de campagne ou un poêlon fromager.
Bon appétit, ma petite dame.
Merci. Et c'est au top, quoi. Puis c'est des bons produits en plus.
Ça permet de sortir du travail et de manger du coup au restaurant moins cher, et c'est ça qui est bien.
Des prix défiant toute concurrence pour attirer de nouveaux clients, c'est justement l'objectif de cette formule anti-crise lancée début octobre, alors que le restaurant était en difficulté depuis plusieurs années.
Ça a été progressif, et ces derniers mois c'était quand même assez important. Alors j'ai dit, on ne peut pas rester comme ça.
Le succès a été immédiat. En un mois, la fréquentation a doublé. Et malgré ses prix très bas, le restaurant reste rentable.
En général, les gens quand même jouent le jeu. Ils prennent un café en plus, ils prennent des boissons, ils prennent un autre dessert. Pour l'instant, c'est bon. Maintenant, on va voir à long terme si ça va continuer ou pas.
L'opération va se poursuivre au moins jusqu'à la fin du mois.
Et on est loin des menus anti-crise. Regardez ce record ce matin. À votre avis, combien s'est vendu ce portrait réalisé par le peintre autrichien Gustav Klimt ? Réponse, 236 millions de dollars, soit 203 millions d'euros. C'est la deuxième œuvre la plus chère jamais vendue aux enchères.
Comme quoi, il y en a qui ont encore de l'argent, Emmanuel, à dépenser.
Ben heureusement.
On ne connaît pas le nom de l'acheteur, d'ailleurs. Il a été gardé secret.
L'écho, tout de suite.
Votre rendez-vous avec AG2R La Mondiale. Épargne, retraite, santé, prévoyance. AG2R La Mondiale, prendre la main sur demain.
Retrouvez votre rendez-vous avec EBS Énergie. EBS Énergie, financeur de vos travaux de rénovation énergétique.
Votre rendez-vous avec Evans, votre partenaire location longue durée. Avancez vers une meilleure mobilité avec Evans.
Une petite révolution, Emmanuel, dont on se serait bien passé, franchement. Bercy nous prépare une hausse de la taxe foncière.
Alors, où s'arrêtera la folie fiscale ? C'est-à-dire qu'entre les députés qui veulent, eux, augmenter ou créer des nouvelles taxes, et puis là, le ministère de l'économie qui invente de nouvelles usines à gaz pour rendre le contribuable encore plus dingue, je ne sais pas effectivement où ça va s'arrêter. Là, il s'agit de la taxe foncière payée par 32 millions de propriétaires en France. Elle est calculée, bien sûr, en fonction de la surface de votre bien en mètres carrés, mais aussi en fonction de certains critères de confort. Il y en a 6, hein. Est-ce que vous êtes raccordé à l'eau et à l'électricité ? Est-ce que vous avez une baignoire, une douche, un lavabo, des WC, un chauffage ou un climatiseur ? Et donc, pour la taxe foncière 2026, eh bien, Bercy prépare un grand toilettage de ces fichiers qui n'ont pas été revus depuis 50 ans.
Ah quand ouais.
même. Eh oui, depuis 50 ans. Et donc, c'est simple. On va considérer que votre logement, il est vraisemblablement équipé de tout le confort moderne et que ça va être à vous de prouver que vous n'avez pas de baignoire ou de climatisation. Et donc, comme toutes les hausses d'impôts, l'opération est justifiée comme une mesure d'équité fiscale. Mais c'est une hausse d'impôts.
Et au final, il y a combien de Français qui vont être concernés ?
Il y en a 7,4 millions de logements métropolitains qui comporteraient au moins un élément de confort qui n'est pas recensé dans les fichiers de Bercy aujourd'hui. La réévaluation toucherait environ 25% des maisons et 15% des appartements avec de fortes disparités régionales. Ça concernerait par exemple 45 à 60% des logements en Corse, où manifestement les fichiers de 50 ans laissent penser que les Corses vivaient encore dans des bergeries. Je ne sais pas pourquoi. Et par contre, 10% seulement en Indre-et-Loire, le pays des châteaux, peut-être, je ne sais pas pourquoi. Il n'y a que les propriétaires quand même concernés par des changements significatifs qui recevront un courrier sur leur fameux espace sécurisé, impots.gouv.fr.
Bon, alors combien ça va coûter tout ça aux propriétaires ?
Alors, il faut rappeler qu'en moyenne, la taxe foncière, c'est 1100 euros pour une maison, plutôt 850 pour un appartement, avec là encore des écarts qui vont du simple au double entre la région la plus chère, l'Île-de-France, et la moins chère, la Corse, ceci expliquant peut-être cela. Alors, Bercy nous dit, vous affolez pas, ça va faire 63 euros seulement par logement, mais il faut rappeler que la taxe foncière, elle a quand même augmenté de 40% depuis 2014, deux fois plus vite que l'inflation. C'est quand même un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase du ras-le-bol fiscal.
Vous le dites très bonne blague. Non, mais attendez, la bonne blague d'Alix, quand même. On peut
vous avez pas entendu qui fait déborder la baignoire. Voilà. Pour parler de baignoire.
C'était la blague d'Alix
si vous,
ce
si
matin.
Vous avez la chance d'en avoir une.
qu'on va souligner. Voilà la petite surprise bien agréable de Bercy. Merci beaucoup, Emmanuel. À la une du journal de 7h30, à quoi ressemblent les riches, justement, en France? Salaire, patrimoine, foyers fiscaux, l'INSEE dévoile. Baignoire ou douche, l'INSEE dévoile le portrait robot des Français les plus.
Et puis à 7h40, la chronique internationale de François Clémenceau. La Russie pourrait-elle se lancer dans une nouvelle guerre contre un pays européen? C'est l'alerte en tout cas lancée par le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius.
Dans cette matinée hivernale, restez au chaud, bien accompagné avec l'équipe de BFM Première. On est ravis de vous accueillir avec Dominique à la une ce matin. Qui sont réellement les riches en France? Revenus, profession, âge. L'INSEE dévoile leur portrait robot. On y apprend notamment que depuis 10 ans, leurs revenus ont augmenté plus vite que ceux du reste de la population.
Je ne me tairai pas pour la première fois depuis la mort de son frère. Amine Kessassi prend la parole. Le jeune militant marseillais promet de continuer le combat contre le narcotrafic. Une lutte à mort est engagé, dit-il.
Pourquoi le prix de l'eau va-t-il encore flamber en France? L'UFC Que Choisir et le distributeur Suez alertent. Dans les 5 prochaines années, nos factures pourraient augmenter de 30 à 50%.
Et puis à 7h40, la chronique internationale avec François Clémenceau. La Russie pourrait-elle se lancer dans une nouvelle guerre contre un pays européen? C'est en tout cas l'alerte lancée par le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius.
En plein débat budgétaire, c'est une étude riche en enseignements qui est publiée par l'INSEE, le portrait social d'une France où les inégalités de revenus et de patrimoine se creusent.
Et où les revenus les plus aisés ont même doublé en 10 ans. Alors salaire, patrimoine, foyer fiscal, à quoi ressemblent aujourd'hui les riches? Combien gagnent-ils? Gaëtan Mélin, Clémence Renard avec Antoine Fernandez.
Demeure luxueuse, voiture de sport et vue sur le lac d'Annecy. Bienvenue dans la petite ville où ici les riches sont les plus riches. Verrier-du-Lac, à peine 2300 habitants et un niveau de vie plus que confortable. Dans cette commune, 10% des habitants gagnent au minimum 10 000 euros par mois, voire potentiellement beaucoup plus. Car ici, l'impôt sur le revenu s'élève en moyenne à plus de 27 000 euros. C'est 6 fois plus que la moyenne nationale. Les prix de l'immobilier flambent. Comptez en moyenne 11 000 euros du mètre carré, c'est plus qu'à Paris.
Mais c'est sûr que de toute manière, on ne peut pas acheter une maison à 2 millions sans avoir des revenus conséquents.
Un niveau de vie dans cette petite commune qui reflète le portrait robot des Français les plus riches, établi par l'INSEE. L'Institut décrit le Français riche comme un homme sans enfant, âgé entre 50 et 69 ans, qui cumule des revenus importants et du patrimoine. Côté salaire, 1% des postes salariés dans le privé sont rémunérés plus de 10 219 euros par mois. C'est même jusqu'à plus de 27 000 euros chaque mois pour les 0,1% des postes les mieux rémunérés. Des salaires élevés, mais des impôts ces 20 dernières années encore plus importants.
Les très hauts revenus ont eu encore plus de patrimoine, mais globalement, ils ont aussi payé davantage d'impôts, même si leur taux d'imposition a baissé, ce qui n'est pas le cas des plus modestes.
L'étude dresse aussi le top 100 des salariés les mieux payés en France. On y retrouve bien sûr des chefs d'entreprise et des cadres dirigeants, mais aussi 36 footballeurs de Ligue 1.
Émotion très vive hier à Marseille lors des obsèques de Mehdi Kessassi, le frère d'Amine, ce militant engagé dans la lutte contre le narcotrafic. S'est escorté par des policiers du raid et muni d'un gilet pare-balles qu'il a accompagné la dépouille de son frère.
Le quartier était bouclé, surveillé par des policiers lourdement armés, un dispositif exceptionnel alors que la piste d'un assassinat d'intimidation reste privilégiée. Intimidé, Guillaume Daré, il ne l'est pas pour la première fois depuis l'assassinat de son frère. Il prend la parole ce matin dans une tribune au Monde.
Oui, ces mots sont forts. Hein. Je parle et je ne me tairai pas, dit-il, parce que ma mère m'a appris justement à ne pas baisser la tête. Levons-nous ensemble, courage, on ne peut pas tuer tout un peuple. Voici ces mots d'Amine Kessassi qui va même encore plus loin. Face à un tel ennemi, dit-il, l'État doit prendre la mesure de ce qu'il se passe. Une lutte à mort est engagée, il est temps d'agir. Nous comptons nos morts. On verra quelle sera effectivement la réponse du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Justice qui doivent se rendre demain à Marseille. Emmanuel Macron a dit à nouveau qu'il réunirait tous les responsables et ministres qui sont en charge de ce dossier avant de s'y rendre mi-décembre.
Et une marche blanche est prévue d'ailleurs samedi. Merci Guillaume. En Corse, plusieurs entreprises ont été sanctionnées pour avoir gonflé les prix de l'essence. L'autorité de la concurrence les accuse de s'être entendue sur la distribution des carburants, faisant grimper la facture pour les automobilistes.
Ouais, il s'agit de Total Energy, de Ruby et de EG Retail, condamnés à une amende salée, plus de 187 millions d'euros. Pour cette entente illicite, Élise Breteau et Adrien Spiteri.
Lorsqu'ils se rendent dans une station-service comme celle-ci pour mettre de l'essence, cet automobiliste corse fait toujours la même remarque.
Elle est plus chère qu'ailleurs, ça c'est sûr. Elle est plus chère que sur le continent et qu'en Espagne, c'est sûr.
Une dépense qui pèse lourd sur le budget de certains habitants de l'île de Beauté.
Je prends mon exemple, mon cas particulier, je suis à 70 euros par semaine d'essence.
Pour l'autorité de la concurrence, si les prix des carburants sont aussi élevés, c'est notamment en raison de pratiques anticoncurrentielles. Lundi, trois groupes ont d'ailleurs été condamnés à hauteur de 187 millions d'euros. Ils sont soupçonnés d'avoir tenté d'évincer leurs concurrents au détriment du consommateur.
Maintenant, ça ne s'arrête pas là. C'est pas parce qu'il y a une condamnation que on va voir des prix qui baissent. Non, la condamnation est la démonstration qu'il y a quelque chose de pourri dans le royaume de la distribution des carburants en Corse. Maintenant, que fait-on ? Le L410-2 du Code du commerce, la régulation des prix.
Selon l'Agence économique de la Corse, au mois de septembre par exemple, le gasoil coûtait en moyenne par litre 12,82 centimes de plus sur l'île que sur le continent. Mis en cause, le groupe Total Energy a annoncé faire appel de la décision.
L'IGPN, la police des polices, épinglée dans un rapport de l'ONG Flagrant Déni. L'association dénonce une hausse des cas de violences policières et surtout très peu de sanctions.
L'IGPN ne traiterait qu'environ 10% des enquêtes pénales visant des policiers. Leur patron, Stéphane Ardouin, sera l'invité de Julien Arnaud à 11h. Ce nouveau coup dur à présent pour votre porte-monnaie, les tarifs de l'eau du robinet vont augmenter.
Deux études viennent de paraître, elles ont la même conclusion. Dans les 5 ans à venir, votre facture d'eau va grimper de 30 à 50% en cause notamment le coût de plus en plus cher de la dépollution. Chloé Girotté au Touchet avec Blandine Aléna.
La part consacrée à l'eau potable dans le budget d'un ménage est de 0,8% en moyenne. Une dépense que certains Français ne jugent pas excessive.
480 à l'année à la louche. Je pense payer le juste prix.
L'électricité, c'est plus élevé.
Oui.
Donc ça ne paraît pas plus élevé que ça, quoi.
Mais il se pourrait que votre abonnement augmente de quelques euros. C'est ce que préconise la Fondation Jean Jaurès et le fournisseur d'eau Suez. Et cette hausse devrait servir à financer le renouvellement des réseaux qui a pris du retard, mais aussi de nouveaux investissements.
On sent bien qu'il y a une préoccupation qui monte dans le pays, cette fois-ci quant à la qualité de l'eau potable. On parle beaucoup des fameux PFAS. En plus, on constate que l'eau est peut-être pas un bien inépuisable, même en France, et que donc il va peut-être falloir y consacrer un petit peu plus d'argent.
Mais pour l'association UFC Que Choisir, ce n'est pas aux particuliers de payer.
Nous demandons la mise en place du principe pollueur-payeur à travers deux taxes. Une première taxe qui existe déjà, c'est la taxe sur les pesticides utilisés par l'agriculture intensive et qui doit être augmentée. La deuxième chose, eh bien, c'est une taxe qui a été votée par la loi et qui doit être payée par les industriels qui répandent des polluants éternels au niveau de l'environnement. Malheureusement, cette taxe n'est toujours mise en œuvre.
Aujourd'hui, les particuliers financent à hauteur de 80% les services de l'eau en France, bien qu'ils ne représentent qu'environ 25% de la consommation totale.
On vous parlait tout à l'heure du tableau de Klimt qui a été vendu aux enchères à New York pour un tarif de 236 millions de dollars. Voilà, c'est la deuxième œuvre la plus chère jamais vendue aux enchères. Eh bien, on a un autre objet à vous proposer, plus étonnant celui-là.
Ah, beaucoup plus étonnant, regardez. Ouais. Dans un salon, ça rend pas mal aussi. C'est une
cuvette. Quoi ou non ?
Une toilette, une toilette.
Le mauvais goût absolu quand même.
Non, je vous vois bien dessus, moi, François.
Toilette,
comptez pas sur moi.
On veut une photo. Ah, attendez, attendez. Vous avez bien vu ou pas ? Toilette en or. En or, évidemment. Adjugez, à votre avis, combien les toilettes en or ?
C'est marqué. Ah, là, c'est écrit en gros. Hein. Même moi, sans mes lunettes, j'arrive
c'est
à dire.
C'est écrit en gros. Plus de 12 millions.
On est chez Trump, là.
Dollars. Ah, mais c'est peut-être les toilettes de Trump, ça, je ne sais pas. C'est pas précisé. En tout cas,
genre, en tout cas,
complètement fonctionnel. Complètement fonctionnel.
Œuvre intitulée voilà. America.
Ah voilà. Voilà, on y est, en hommage peut-être à Trump. Kevin nous le disait ce matin, les conditions sont très hivernales, avec le retour du verglas, des gelées, on a les premières neiges aussi en pleine. Mais vous savez ce qu'il y a de bien avec l'hiver, c'est qu'on peut se réchauffer autour d'une bonne raclette.
Et on a envoyé justement Thomas Hermand là-bas, regarder en Isère, en lui promettant la raclette. Ça y est, je crois que les tranches sont découpées, prêts à être fondues. En même temps, il a froid, Thomas. Hein. Il va falloir se réchauffer.
Oui, puisqu'il fait moins 2 degrés ce matin, mais on a quand même un beau petit paysage et puis le soleil qui se lève. Et figurez-vous que ce matin, nous sommes donc dans le département de l'Isère avec la championne du monde de raclette au lait de chèvre. Regardez, ça se passe dans cette fromagerie. Bonjour Marine. Bon, vous êtes championne du monde. Qu'est-ce que ça fait d'avoir ce titre depuis quelques semaines ?
On est fiers. Hein, on est vraiment très, très contents. C'est une belle reconnaissance pour un travail qu'on fait tous les jours et on s'applique, ou toute l'équipe s'applique. Donc, on est vraiment, vraiment fiers.
Vous n'êtes pas seule dans l'aventure. Je crois qu'il y a votre papa qui vous a suivi notamment.
Oui, c'est ça. J'ai mon papa, j'ai ma tante. Il y a Philippe qui est le chef de cave. Il y a Hugo qui est avec nous. C'est vraiment un travail d'équipe.
Il y avait deux fromages qui ont été présentés au concours.
Oui.
C'est quoi la différence entre les deux ? Lequel a gagné ?
Alors, il y a la grisée de vache, donc frottée au vin blanc, et ensuite il y a la grisée de chèvre, et c'est la raclette au lait de chèvre qui a gagné. C'est la meilleure du monde, du coup, celle-là.
Bon, vous êtes quoi ? Vous avez plus de ventes depuis cette distinction ? Ça a attiré la curiosité des clients ? C'est quoi le ressenti depuis ?
Eh ben oui, ça a attiré des clients parce qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui sont intolérantes au lait de vache et qui ont découvert qu'il y a de la raclette de chèvre qui existe. Donc du coup, on a beaucoup plus de clients qui viennent découvrir la chèvre.
Je pose une question à votre papa. Je vous laisse nous servir quand même une petite tranche de raclette en attendant. Pour vous demander quand même, ça fait quoi de suivre votre fille dans cette aventure ? Vous avez fait il n'y a pas longtemps le mondial de la fondue aussi. Bon, là, vous n'avez pas gagné. Mais c'est important de cette transmission de savoir-faire de génération en génération.
On est fiers de voir qu'elle a écouté tout ce qu'on a pu lui dire et puis qu'on l'a formée comme il faut. Voilà, c'est bien.
Une quinzaine de salariés à peu près dans cette entreprise. Regardez ce matin quand même. Alors je sais, il est 7h40, c'est un peu tôt. Je précise quand même que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé puisque vous voyez quelques verres de vin blanc. On vous a quand même sorti tout l'attirail ce matin pour vous faire cette petite ambiance de montagne ce matin. Et regardez, je termine quand même par vous goûter ce bon fromage. Chaque Français consomme 2 kilos de raclette chaque année. Bah écoutez, regardez, j'en fais partie ce matin. Le nombre d'appareils raclette vendus aussi chaque année, 1 200 000.
Mais c'est
plutôt pas mal.
Et ce pain qui croustille là avec.
Bon, après, on aime bien avec les patates quand même, la raclette.
Avec un petit verre.
Avec un petit verre, oui. Alix, c'était les verres de vin là, qui lui donnaient envie, mais effectivement, même, Thomas a bien fait de préciser que c'était à consommer avec modération, surtout à 7h40 du matin.
Quelle a l'air bonne.
Et un peu de viande des grisons.
En plus, c'est maigre, ça, la viande exactement. Des grisons. Donc, c'est parfait.
Ah, ça donne faim.
Allez, on va parler politique internationale et culture à présent, signé BFM, comme chaque matin.
Retrouvez votre rendez-vous avec EBS Energy. EBS Energy, financeur de vos travaux de rénovation énergétique.
Retrouvez votre programme avec Fortuneo, numéro 1 au classement des banques les moins chères. Fortuneo, j'aime ma banque.
La politique, ça fait des semaines qu'on s'est entendu, notre Arthur, là, avec les débats budgétaires à l'Assemblée nationale.
Ça va mieux.
Mais ça y est,
ça va aller
vous
mieux.
Allez pouvoir souffler, le Sénat, voilà votre secours.
Absolument, après des semaines à subir ce délire fiscal de l'Assemblée, cette foire aux taxes, ce feu d'artifice d'infos que les députés nous ont imposé, eh bien... L'heure du retour à la raison a enfin sonné. Ça y est, c'est désormais vers le Sénat que les regards vont se tourner, puisque le Palais du Luxembourg, c'est comme ça qu'on surnomme le Sénat, va examiner en séance publique à partir d'aujourd'hui le PLFSS, cet acronyme barbare, pour parler d'un texte ô combien important, mais aussi très concernant, à savoir le budget de la sécurité sociale et de sa mesure la plus emblématique en ce moment, la suspension de la réforme des retraites, une hérésie économique et financière sur laquelle les sénateurs sont déjà revenus ce week-end en commission. Commission durant laquelle ils ont ramené le déficit de la sécurité sociale à 15 milliards d'euros contre 23 milliards d'euros aujourd'hui et contre une trentaine de milliards d'euros à l'Assemblée. C'est deux fois moins donc, à condition de confirmer maintenant cela en hémicycle, ce qui ne fait guère de doute dans une chambre où la droite et le centre sont très largement majoritaires et où il n'existe heureusement pas de voix dissonante ou dissidente sur leur banc.
Je ne voudrais pas casser votre bonne humeur, Arthur, mais vous savez que c'est quand même l'Assemblée qui a le dernier mot dans tout ça.
C'est vrai, vous avez raison, il va y avoir après le Sénat ce qu'on appelle une CMP, c'est-à-dire une tentative de conciliation entre députés et sénateurs. Cette CMP, elle va être non conclusive, elle va échouer dans un premier temps. Il y aura ensuite une nouvelle lecture dans chacune des deux chambres et donc le débat va se poursuivre. Mais l'essentiel, en fait, il n'est pas là pour l'instant. L'essentiel, c'est que le débat va enfin se rééquilibrer là où la recherche de compromis à tout prix avait conduit l'exécutif à tout lâcher au Parti Socialiste à l'Assemblée. C'est désormais non plus la recherche de compromis, mais la recherche d'économie qui va dicter les débats. Parce que s'ils ont la réputation d'être plus ennuyeux que leurs collègues députés, les sénateurs ont aussi la qualité d'être plus raisonnables. Et donc, même s'ils n'obtiennent pas gain de cause sur absolument tout à la fin des fins, tout ce qu'ils pourront arracher pour limiter la casse sera déjà le bienvenu et surtout, ça ne sera pas du luxe.
Gérard Larcher, le héros d'Arthur Gardin.
Vous voyez, tout arrive.
On va revenir avec vous, François, maintenant sur une petite phrase du ministre allemand de la Défense qui a beaucoup fait réagir et qui, pour tout dire, n'est pas très rassurante, dans laquelle il évoque la possibilité d'une nouvelle guerre d'agression russe en Europe, non pas dans quelques années, mais dès l'an prochain.
Oui, déjà l'année dernière, c'était le chef de la sécurité intérieure allemand qui avait déclaré que la guerre hybride que menait la Russie en Europe avait tellement augmenté ces dernières années qu'il fallait se préparer mentalement et physiquement à une guerre potentielle frontale avec la Russie d'ici 2030. Là, si on compare avec ce qu'a dit Boris Pistorius au Frankfurter Allgemeine Zeitung avant-hier, on change effectivement de calendrier puisque, regardez ce qu'il dit, certains disent qu'en 2028 c'est possible et certains historiens militaires pensent même que l'été dernier, celui qu'on vient de vivre, aura été notre dernier été en paix. Alors, évidemment, lui aussi, il regarde tous les jours le bilan des actions menées par la Russie et quand on regarde à quel point elles s'accumulent et elles se multiplient, que ce soit les câbles sous-marins sectionnés en Baltique, les sabotages d'usines d'armement, les incendies de dépôts, les attentats aux colis piégés, les tentatives d'assassinat, pas plus tard qu'avant-hier, les sabotages des voies ferrées en Pologne, eh bien vous vous dites, ça se rapproche et donc il y a la possibilité que cette guerre hybride eh bien, finissent par devenir cinétiques contre l'un des pays d'Europe. Pourquoi ? Eh bien, parce que Vladimir Poutine teste tous les jours notre système de défense collective et lorsqu'il voit que la réaction n'est pas suffisamment forte, eh bien, il se dit pourquoi pas ? Il y a des jeux de simulation qui existent déjà, par exemple sur une attaque russe de l'Estonie. Les jeux de guerre montrent que nous ne serions pas à la hauteur de ce défi-là.
Mais techniquement, est-ce que c'est possible quand on voit les difficultés malgré tout que la Russie a avancé en Ukraine après 3 ans et demi de guerre ?
Oui, mais en même temps, ce que recherche Poutine, ça n'est pas forcément et uniquement la conquête territoriale. C'est davantage de montrer, de prouver le plus souvent possible que l'Occident est faible, qu'il est divisé et qu'il serait dans l'embarras dans une possible riposte par rapport à ces agressions. Regardez aussi ce que disait Volodymyr Zelensky, pas plus tard qu'il y a une dizaine de jours, dans une interview au quotidien britannique The Guardian. Il disait, eh bien, il faut arrêter de croire maintenant que Poutine veut d'abord occuper l'Ukraine avant d'attaquer ailleurs. Il est capable de faire les deux à la fois. C'est aussi le constat que font un certain nombre de chefs d'état-major, dont le nôtre, le chef d'état-major de l'armée française, le général Mandon, qui dit qu'il faut tout simplement se préparer. Ça ne veut pas dire qu'on va faire la guerre, mais il faut s'y préparer et il faut aussi préparer les populations à la résilience, à l'esprit de défense et il vaut mieux plus tôt que pas du tout.
Voilà pour cette mise en garde ce matin du ministre allemand de la Défense sur les ambitions belliqueuses et pas très rassurantes de la Russie en Europe.
Alix ?
Oui.
courez, vous êtes filmé.
Oui, bah c'est exactement. Alors c'est vrai.
C'est quoi ce lancement, Alix, franchement?
C'est quoi ce lancement? Eh bien, courez, vous êtes filmé. C'est exactement comme ça qu'on pourrait résumer le film dont je vais vous parler aujourd'hui, qui s'appelle donc Running Man. C'est un film dystopique. L'histoire se passe aux États-Unis dans un futur proche. On suit un homme désespéré qui, pour un peu malgré lui, pour sauver sa famille de la pauvreté, va participer à un jeu télévisé absolument cruel pour gagner de l'argent. Pendant 30 jours, il doit échapper à des hommes armés. Voilà, c'est une chasse à l'homme. Alors, je précise que c'est interdit aux moins de 12 ans. On va regarder un extrait de la bande-annonce. Accrochez-vous.
Arrêtez de me filmer! Tu t'es jamais demandé si le jeu était pas truqué?
On va vite le savoir.
Alors, Running Man, ça vous parle peut-être. C'est l'adaptation d'un livre de Stephen King qui est sorti en 1982. Il y avait eu aussi une adaptation au cinéma avec Arnold Schwarzenegger. Là, c'est Glenn Powell qui incarne cet homme. Il est impressionnant. Il a réalisé d'ailleurs la plupart des cascades. Et pour ça, il a demandé au roi de la cascade à Hollywood qui est...
Tom Cruise,
effectivement. Ils ont d'ailleurs joué ensemble dans Top Gun. Voilà, il lui a passé un petit coup de fil. C'est ce qu'il a confié au micro de Claire Fleury.
Je pensais que ça serait une conversation assez courte. Et finalement, on s'est appelé pendant 2h30. Il m'a guidé sur tout. Je prenais des notes, des pages et des pages et des pages. Et sur le tournage, quand je suivais ses conseils, tout allait bien. Mais quand je ne le faisais pas, les choses tournaient mal. Il fait ça depuis des dizaines d'années et à un niveau tellement élevé.
Alors, je vais être très honnête avec vous. Au début, pour aller voir ce film, j'y allais un petit peu à reculons, parce que voilà, les gros blockbusters, c'est pas forcément ma tasse de thé. Mais ici, c'est très réussi. Le film dure 2h13. Il y a de l'action dans tous les sens. Vous ressortez de là, vous êtes lessivé. Mais voilà, les scènes d'action sont très réussies. C'est très nerveux. Vous êtes vraiment en immersion, en fait. Et puis, il y a aussi, c'est ce qui m'a plu, une pointe d'humour noir. C'est cynique. Le réalisateur critique aussi la société spectacle et toutes les dérives. Et pour ça, d'ailleurs, le film est très fidèle au livre de Stephen King.
I would say that, you know... Je pense que dans son roman, Stephen King a mis le doigt, a senti le pouls de ce qui se passe actuellement dans notre société, mais aussi de ce qui pourrait se passer dans un futur proche. Et c'est effrayant, c'est sûr.
And I think that can scare people.
I'm still here.
Et alors, je termine avec un sondage qui vient de sortir aujourd'hui de l'Institut YouGov. Un Français sur 10 se dit prêt à participer à un jeu télévisé mortel pour 1 milliard d'euros.
Wow, vous le feriez, vous?
Non, la vie est belle.
Non.
Belle conclusion.
Voilà. Bon, ne vous fiez pas à la bande-annonce. Plus surprenant donc ce film que la bande-annonce. C'est ce que vous me dites ce matin. Merci Alix. Restez avec nous. Dans un instant...
À la une du journal de 8h, on va revenir sur cette petite surprise. Pas forcément très bonne pour les propriétaires. Surprise de Bercy qui annonce une hausse de la taxe foncière pour 7 millions de foyers l'an prochain pour des raisons de confort. On va vous expliquer tout ça.
Et puis un document exceptionnel ce matin au cœur d'un transfert de prisonniers. Les caméras de BFM TV ont pu suivre l'arrivée d'un détenu à la nouvelle prison de Condé-sur-Sarthe. Un document exceptionnel.
Il est bientôt 8h, bienvenue dans BFM Première. On est ravis avec Perrine de démarrer la journée avec vous. À la une ce matin, préparez-vous à payer plus cher l'an prochain votre taxe foncière. Si vous êtes propriétaire, Bercy annonce une hausse surprise de cette taxe. Elle sera automatique et concernera plus de 7 millions de foyers. Augmentation liée au confort des logements, on va vous expliquer.
Pour la sauver des griffes d'un escroc, les enfants d'une septuagénaire viennent de porter plainte. Elle est persuadée de vivre une histoire avec le chanteur Pierre Garnier. Une arnaque au sentiment qui lui a déjà coûté plusieurs milliers d'euros.
Notre enquête ce matin, un document exceptionnel. Les caméras de BFM TV ont pu suivre le transfert d'un détenu vers la nouvelle prison de haute sécurité de Condé-sur-Sarthe. L'établissement doit accueillir d'ici la fin du mois une quarantaine de prisonniers parmi les plus dangereux du pays.
Et puis à 8h30, Frédéric Ploquin sera l'invité d'Apolline de Malherbe. Le journaliste spécialiste du narcotrafic reviendra sur l'assassinat du frère d'Amine Kessassi. Il prend la parole ce matin dans une tribune dans Le Monde. Je ne me tairai pas, je dirai la violence du narcotrafic.
C'est une hausse qui n'était pas prévue, en tout cas pas par les propriétaires. Si c'est votre cas, Bercy vous a réservé une petite surprise. Avec des guillemets, préparez-vous à voir votre taxe foncière augmenter l'an prochain.
Et ce, sans même compter, sans tenir compte de l'inflation, une hausse moyenne de 63 euros sur la facture qui va concerner plus de 7 millions de foyers. Bercy se justifie en parlant d'ajustements liés à des critères de confort. Explication Thomas Errigo, Élise Philippe, Gaëtan Mélin avec Milan Argelas.
Cette mise à jour souhaitée par Bercy pourrait coûter cher à 32 millions de propriétaires français. Six éléments de confort déterminent en partie le montant de la taxe foncière. Le raccordement à l'eau et à l'électricité, la présence d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo, de WC, d'un chauffage ou d'un climatiseur. Aujourd'hui, l'administration fiscale estime que les logements sont tous équipés. Près de 7,5 millions d'habitations vont donc voir leur taxe augmenter.
Tout ça est ridicule. Il faut aujourd'hui revoir les bases de taxes foncières et prendre la valeur de la maison ou de l'appartement plutôt que ces critères de confort qui sont ridicules.
Pour ce député RN, c'est surtout la méthode du gouvernement qui pose problème.
Techniquement et intellectuellement, c'est pas délirant de dire bon ben faut remettre les choses à jour. Ce qui m'inquiète, c'est ce que je trouve dommage, c'est qu'on n'ait pas anticipé un peu la chose, que ça sorte, que tout le monde le découvre comme ça au hasard d'un article.
Cette augmentation comporte de grandes disparités selon les départements. Seuls 10% des logements sont concernés en Isère, 60% en Haute-Corse.
Merci, parisianisme, considérant que sur tout le territoire français, on fonctionne comme dans les quartiers parisiens. Vous croyez qu'en Corse et en Haute-Corse, il y a eu des inondations de confort, alors qu'en général, ce sont des biens qui sont indivis sur plusieurs générations, qui ne sont pas entretenus, parce que l'histoire familiale est ainsi faite.
Cette mise à jour induirait une hausse moyenne à l'année de 63 euros par logement, ce qui pourrait rapporter 446 millions d'euros aux communes et aux départements.
On voulait vous raconter aussi l'histoire ce matin de cette septuagénaire belge aux mains depuis plusieurs mois d'un escroc qui se fait passer pour Pierre Garnier, le vainqueur de la Star Academy.
Oui, vous vous souvenez peut-être de l'affaire du faux Brad Pitt. Eh bien, c'est exactement la même histoire, sauf que cette fois, la victime ne veut rien entendre. Elle a même coupé les ponts avec ses enfants qui ont décidé de porter plainte pour tenter de la sauver. Ils ont témoigné hier soir sur BFM TV. Bettina de Guglielmo.
Cette Belge de 73 ans pense encore aujourd'hui vivre une histoire d'amour avec le grand gagnant de la Star Academy, Pierre Garnier. Victime d'une escroquerie au sentiment sur les réseaux sociaux, son fils et le compagnon de ce dernier tentent de la faire sortir de cette emprise.
Ben, elle me répond tout simplement que c'est le vrai Pierre parce qu'il lui a envoyé des photos. Elle disait que nous, on avait tort, que c'était du blabla, qu'on lui veut du mal. Mais elle est dans sa bulle, elle est enfermée avec cet escroc et elle ne veut rien entendre.
Sa famille a déposé plainte, mais le mal est fait. La septuagénaire aurait déjà versé près de 7000 euros à cet arnaqueur.
Quand elle reçoit sa pension de veuve, elle verse tout ce qu'elle a à cet escroc.
La semaine prochaine, il y a encore un virement de 800 euros qui doit, 700 ou 800 euros qui doit partir.
Et encore fin décembre.
Autre cas, celui de Stéphanie à Montréal, victime d'une arnaque par un faux grand corps malade.
Je reçois une demande d'amis sur Messenger de Fabien Marceau, je ne sais pas qui c'est, puis je vois que c'est le nom civil de grand corps malade.
Une relation épistolaire s'installe. Les vidéos qu'elle reçoit sont probantes, mais générées par une intelligence artificielle.
Je voulais te rencontrer, te faire une vraie bise, mais t'es pas là, on t'attend.
Très vite, l'individu lui demande de l'argent, prétextant que son fils devait être hospitalisé à Toronto et que les frais devaient être avancés.
Quand on regarde un peu avec la police aujourd'hui les documents, tout le monde aurait pu s'y méprendre en fait, parce que c'était d'une véracité incroyable.
Franco-canadienne, Stéphanie a porté plainte en France et au Canada. Dans cette arnaque, elle a perdu l'équivalent de 20 000 euros.
Au lendemain des obsèques de Mehdi Kessassi à Marseille, son frère Amine, engagé, vous le savez, jeune militant engagé dans la lutte contre le narcotrafic, a décidé de prendre la parole.
Dans une tribune dans Le Monde, il affiche toute sa détermination pour continuer de lutter contre le trafic de drogue, contre les trafiquants. L'intimidation ne marche pas. Non, je ne me tairai pas, dit-il. Bettina de Guglielmo.
Non, je ne me tairai pas. Dans une tribune publiée dans le journal Le Monde, Amine Kessassi, militant écologiste connu pour son combat contre le narcotrafic, dénonce la mort de son frère, Mehdi, 20 ans, assassiné le 13 novembre.
Je dirai et répéterai que Mehdi est mort pour rien. Je dirai la violence du narcotrafic. Je dirai la dérive folle de ceux qui exécutent des contrats et brisent des vies.
Dans ses écrits, Amine Kessassi interpelle l'État.
Je dirais les carences de l'État, les failles de la République, les territoires abandonnés et les populations oblitérées. Face à un tel ennemi, l'État doit prendre la mesure de ce qu'il se passe et comprendre qu'une lutte à mort est engagée.
Hier, j'ai enterré mon frère et aujourd'hui je parle, clame-t-il. Le militant le martèle, il est temps d'agir.
Que notre révolte face au narcotrafic soit durable et collective. Levons-nous ensemble. Courage. On ne peut pas tuer tout un peuple.
Suite à ce drame, le président de la République a convoqué hier une réunion en urgence à l'Élysée. Demain, Laurent Nunez et Gérald Darmanin se rendront à Marseille.
Chacun a le droit d'exprimer ses convictions et les artistes aussi. Quelques jours après les propos polémiques d'Alain Souchon sur le RN, eh bien c'est Pierre Arditi qui lui apporte son soutien.
Le chanteur avait déclaré chez nos confrères d'RTL, je le cite, ne pas croire que les Français soient assez cons pour élire un président RN. Et bien sur BFM TV, Pierre Arditi s'est dit d'accord sur tout et défend le droit de donner son avis.
Compte tenu du contexte, évidemment, et pour une certaine catégorie de politique, ils se sont jetés dessus en disant voilà, c'est un bobo germano-pratin. Non, c'est pas un bobo germano-pratin. Il n'a pas envie de voir arriver au pouvoir l'une des parties extrêmes de notre pays. Ce n'est pas la seule, d'ailleurs, il y en a d'autres dans l'autre bord politique. C'est comme ça. Bah, il a balancé ça comme ça, mais il n'est pas plus bobo que moi ou que d'autres. On a des convictions, on a le droit de les exprimer comme on veut. Chacun enterre ses morts comme il veut. Hein, voilà, c'est comme ça.
Alors, les artistes ont-ils raison de s'engager politiquement? Sont-ils déconnectés? Ce sera le thème de notre duel tout à l'heure à 8h45 entre Guillaume Daré et Laurent Neumann.
Aux États-Unis, les deux chambres du Parlement ont voté hier une loi pour rendre public les documents d'enquête potentiellement explosifs liés à l'affaire Epstein.
Après des mois de résistance pour empêcher qu'il ne soit dévoilé, Donald Trump s'est finalement engagé à signer le texte dès qu'il arrivera sur son bureau, même si le président américain continue de se montrer tendu à l'évocation de l'affaire. Regardez cet échange. C'est à bord de son avion avec une journaliste qui l'interrogeait sur ses liens avec le criminel sexuel.
Monsieur, s'il n'y a rien d'incriminant dans les fichiers, pourquoi ne pas...
Tais-toi, cochonne ! Tais-toi !
Voilà, et on apprend ce matin, ça vous laisse pantois, François. On apprend ce matin, en tout cas c'est ce que nous révèle la presse suisse, que les Suisses ont, semble-t-il, parfaitement négocié leurs droits de douane avec le président américain il y a quelques jours. On parle d'une histoire de Rolex et de lingots. Racontez-nous tout ça.
Oui, on se posait la question de savoir comment les Suisses avaient réussi à faire baisser leurs droits de douane imposés par Donald Trump et les États-Unis de 39% à 15%. Et donc, la délégation suisse qui s'est rendue à la Maison-Blanche et au département du commerce pour négocier, c'était le 4 novembre dernier, mais figurez-vous que ce n'était pas une délégation politique. C'était une délégation de chefs d'entreprise à la demande du gouvernement helvétique pour pouvoir montrer à Donald Trump ce qu'est le business en Suisse, à quel point les entreprises de joaillerie, les entreprises et les firmes de finance sont importantes. Et donc, ce discours-là, la flatterie plus l'argument économique et des cadeaux. Et dans les cadeaux, il y a effectivement un lingot d'or d'un kilo, valeur 130 000 euros gravés 45-47 pour 45e et 47e président des États-Unis, et puis une petite pendule de bureau Rolex. Là aussi, on ne connaît pas la valeur, mais effectivement,
on imagine
le président
que...
et son service ont tout de suite dit on va mettre ça à la bibliothèque Donald Trump pour pas qu'on soupçonne quoi que ce soit d'autre. Mais ça montre effectivement quelque chose, c'est que si vous flattez Trump, si vous faites appel à son esprit d'entreprise et qu'il y a des cadeaux, eh bien oui, ça a plus de chances de marcher au risque permanent, eh bien qu'on flirte avec la corruption.
La Suisse aurait pu lui offrir aussi ce toilette en or qui a été vendu aux enchères de Sotheby's hier soir. Ça aurait pu lui plaire. Allez, restez avec nous dans un instant. Un document exceptionnel ce matin sur BFM TV au cœur d'un transfert de prisonniers. Les caméras de BFM ont pu suivre l'arrivée d'un détenu à la nouvelle prison de Condé-sur-Sarthe. Un document exceptionnel.
Et puis Charlotte Méritant, notre spécialiste conso, nous a rejoint parce qu'il fait froid et vous avez testé des petits outils, des petits objets, des petits gadgets, voilà, pour se réchauffer.
Et je vais vous faire tester en plateau et j'ai pas encore tout montré, j'en cache d'autres. Vous allez voir.
Allez nous dire si c'est efficace. Merci. Restez avec nous sur BFM TV, on est de retour dans moins de deux minutes. Manuel nous raconte ses souvenirs d'enfance.
Chez ma grand-mère, il n'y avait pas de chauffage. Alors l'hiver, on avait des couvertures chauffantes, c'était des espèces de couettes. avec des grands fils électriques, etc. Bon, des fois, ça prenait feu.
C'est pas... Ah oui, non, ce sport.
Mais c'était, je pense que c'est un peu plus sécurisé maintenant.
Oui, la technologie a évolué quand même.
Bon, Emmanuel, on va parler d'autre chose, de la Cour des comptes. La Cour des comptes qui tire à boulet rouge sur le pacte Dutreil. C'est la niche fiscale préférée des patrons, on le disait, qui permet de se transmettre.
Donc, c'est la niche fiscale préférée d'Emmanuel.
Oui, parce que c'est encore un des derniers dispositifs qui dissuadent les patrons, finalement, de jeter l'éponge en France et de partir à l'étranger. Le pacte Dutreil, du nom de l'ancien ministre des PME qui l'a mis en place en 2003, il faut rappeler que ça permet de transmettre une entreprise, quelle que soit sa taille, à l'intérieur de la famille qui la possède, afin de préserver le tissu industriel français et d'éviter que des entreprises étrangères raflent nos fleurons. Le dispositif, il est utilisé par 4 à 5 000 familles chaque année. Il permet notamment, sous réserve de garder l'entreprise au moins 6 ans, d'obtenir un abattement de 75% sur la valeur des biens transmis, ce qui permet aux héritiers de ne pas être obligés de vendre quand ils n'ont pas les moyens de payer les droits de succession. Or, la Cour des comptes nous dit que ça coûte deux fois trop cher pour des résultats entre guillemets, peu discernable.
Et que propose la Cour des comptes ?
Alors, elle ne nie pas d'abord qu'un tel dispositif est quand même justifié compte tenu de la fiscalité élevée sur les transmissions des sociétés en France, quand même presque deux fois plus qu'ailleurs en Europe. Alors, elle propose quand même de restreindre pour diviser son coût par deux. Elle suggère, par exemple, d'exclure les biens non professionnels de l'abattement. Alors, c'est vrai que typiquement, le yacht n'a pas forcément vocation à faire partie de la succession. Et puis, elle prévoit aussi de rallonger la période pendant laquelle l'entreprise ne peut être revendue.
Les patrons sont vent debout, Emmanuel.
Oui, et le gouvernement n'est pas ravi non plus, parce que le pacte Dutreil, ça fonctionne. Et c'est un des derniers dispositifs qui dissuade effectivement les patrons de partir. Alors, il y a des cas extravagants, certes, mais il y a 80% quand même des pactes qui concernent des PME de moins de 50 salariés. Au final, ce sont plusieurs centaines d'entreprises et 70 000 à 120 000 emplois qui sont préservés chaque année. Et puis, attention, il y a un chef d'entreprise sur trois qui a plus de 60 ans. Aujourd'hui, on va vers une vague de transmission d'entreprises sans précédent dans notre pays. Ce serait dommage d'affaiblir finalement la possibilité des Français à préserver leur patrimoine d'entreprise.
L'alerte ce matin d'Emmanuel. Reste avec nous dans un instant l'invité d'Apolline de Malherbe, Frédéric Ploquin, journaliste spécialiste du narcotrafic. Il répondra aux questions d'Apolline.